Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même un petit peu exceptionnel. Enfin, nous, on a pas connu ça depuis 12-13 ans, là. Avant, entre 5h du matin et midi, sur cette fréquence, c'était une autre radio, c'était pas éphémère. C'était radio. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils sont devenus, enfin, ça, c'est leur problème. Maintenant, c'est booster, mais c'est à une autre heure. Donc là, on a le studio pour nous tout seul, en fait, mais bientôt, il y aura des émissions avant. Et là, on est en direct, on est en FM, là. Là, je cause, et on est en direct. Ça fait un petit peu bizarre.
C'est génial.
Ouais, alors, comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, le studio est crade.
Il est pas comme d'habitude.
Ah non, voilà, tu veux rire, il y a de la cendre partout. Là,
oui, oui, mais pas comme d'habitude.
Pas comme d'habitude.
On l'a trouvé plus crade.
Oui, oui.
Là, on peut poser des papiers sans que ça colle et sans qu'il soit tout noir.
Ouais, ouais, c'est assez bizarre d'ailleurs. c'est le seul endroit qui est propre. C'est l'endroit où on pose les papiers. D'habitude, ça colle, t'arrives pas à tourner les pages.
Alors, d'habitude, pour ceux qui nous écoutent sur le flux diffusé en streaming sur le net, on a un petit texte. On a un petit texte qui nous sert de préparation et tout ça. On va le faire pour une fois en FM, pour l'une des dernières fois. Même pour la dernière fois tout court. Donc on va se caler et puis on va y aller. Donc du coup, donc en général, ça commençait par un dinon et puis ensuite il y a un effet spécial en mettant la main sur le micro comme ça.
PNC en cabine, je vous prie. Mesdames et messieurs, c'est le commandant de régie qui vous parle. Auditeur de radio éphémère service mondial, merci de nous écouter sur le flux Vorbis. Notre programme va être lié à 89,1 mégacycles en modulation de fréquence sur la région de Toulouse à midi pile, temps commun européen. Les sorties de l'appareil sont marquées en haut sur votre écran, en haut à droite par une croix ou un bouton rouge. La température au sol est de 17 degrés Celsius. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie. Merci de boucler votre ceinture pendant l'atterrissage. Les téléphones mobiles sont priés de rester éteints jusqu'à l'arrêt complet du programme. Dans l'attente de nos émissions normales, l'hymne officiel vous est interprété par Fred Rabol, nous disent Bavarie sur Scotrache.
Et en général, on chante derrière. Alors ça, c'était jusqu'à jeudi dernier. Et maintenant, ben voilà, il y a eu le grand chamboulement de la FM à Toulouse. Et donc maintenant, nos créneaux horaires sont complètement chamboulés. Et là-dessus, on chante. Allez, oui. On fait le cœur des vierges. Maintenant, il y a l'émetteur qui vient de basculer. Il y a les mecs de Radio qui sont furieux parce qu'on leur pourrit ce qui vient de passer avant. Ça, on chante dans notre tête d'habitude. Et là, je lance l'ordi. Bonjour et bienvenue, nous sommes donc le samedi 12 juillet 2008 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer,
maintenant,
et ben le supplément week-end avec l'actu BD, mangas, ciné, DVD, animé, DVD, TV, et suivi de... Pardon, c'est dommage, je t'ai coupé.
Ah, suivi de...
Ça c'est du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires, de l'infirmerie et des tribunaux de l'UCI.
Et ensuite...
Et ben j'ai pas le programme. Voilà, c'est l'été, c'est le bordel.
Ça a changé,
c'est la programmation d'été. Vous écoutez FMR sur 89,1 MHz, nous sommes en direct et les horaires sont désormais partagés avec Radio Radio du lundi au vendredi de 14h à 17h, le lundi et le jeudi de 22h à 7h du matin et le samedi et le dimanche de 17h à 7h du matin. Donc tout à l'heure à 17h, c'est Booster. Oh putain, ça va être terrible, je sens que la cohabitation va être quelque chose de sucré salé. Nous, on est revenus de Japan Expo, on s'est bien éclaté. Hein, Thomas ?
Oui, c'était éprouvant. Ouais.
Alors, du sport, il a dit « Ouais, moi aussi, j'ai ramené mon t-shirt asiatique. » Erreur, nos t-shirts sont pas asiatiques, ils sont anglais. Ouais, c'est ouais. Terratag, c'est le mec qui a fait le logo des méchants dans Standalone Complex. Et ça, on en parlera après ça. Bah tiens, Zou, justement. Danky Groove, extrait de l'album A, qui n'est pas sorti en France, malheureusement. Shangri-La, il a failli sortir il y a 10 ans. Donc c'est une rareté qu'on vous passe pour la France. En tout cas nous on éclate. Je rappelle qu'au départ c'était un groupe de J-pop manière disco, complètement pitoyable. Et ils sont pris complètement à leur propre jeu, de remixer, de faire des trucs complètement humoristiques autour de leur musique. Et ça cartonne, je trouve ça absolument d'enfer.
Keep
Alors évidemment, comment j'ai pu découvrir Danky Groove, ben, c'est grâce à un certain Dominique Véré, qui était le cofondateur de Tonkam et qui accessoirement actuellement c'est lui qui s'occupe de Hakata, une société de consulting qui aide notamment Delcourt sur sa programmation manga. Ça, on en parlera beaucoup plus tard, je pense, dans l'émission. Bonjour à tous d'abord et merci de votre fidélité. Merci à vous. Alors, nous excusons par avance, mais en retard de n'avoir pu assurer le direct la semaine dernière. Mais promis juré, aujourd'hui, alors que c'est largement plus difficile, hein, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé et ben, on est au poste là. Voilà, on est dans votre poste. C'est aussi la dernière fois que vous avez donc entendu Fred Rabold, qui est un spécialiste, je vais dire, du Dixie. Jazz et tout ça, c'est vraiment l'orchestre de vieille mamie. C'est un conducteur d'orchestre, c'est un orchestre hein, qu'il y a derrière, qui est revenu à la mode parce que un soir avec le programmateur musical, je lui ai dit écoute, il me faut un truc kitsch mais pas bof, un truc rigolo. Et il m'a dit tiens, prends ça. Dans les autres radios, ils s'en servent comme cale armoire. Et depuis, pendant 12 ans, pendant 4 ans, on s'en est servi même quotidiennement. Ça servait de transition entre radio et éphémère, ce qui a valu d'ailleurs des engueulades mémorables. Et donc voilà, c'est la dernière fois que j'ai passé le Gut, Bruntschlaft, Gruß an Adtal. C'est une marche, voilà, arrangée par Dominique Rabold, qui est la femme donc de Fred Rabold. Fred Rabold est disparu en 99. Et je sais qu'on a eu des lettres de remerciement de l'avoir remis à la mode. Ça a beaucoup fait rire.
À la mode, c'est quand même un grand mot.
Ouais, mais tu sais quand même, on a su qu'il est mort.
Non.
C'est le move qu'il a annoncé. Et comme quoi ils écoutaient FMR. C'est vraiment des gros nazes. Et je pèse mes mots. Ils sont nazes tout court. Voilà, c'est pour différencier. Quand je dis gros nazes, gros, des fois, c'est autre chose. Ouais. On s'en fout, on n'est pas là pour ça. On est là aussi pour dire que Radio donc ne rend plus l'antenne à midi pile temps commun européen. Maintenant on a l'antenne avant comme on veut. Je sais pas, tu veux le CD, tiens. Allez,
non c'est bon.
Ouais.
Donne. J'ai pris toute la collègue la radio parce que personne n'en voulait. Et désormais donc on est avec Booster FM qui est une radio de Jones. Boum boum. Je veux dire boum boum, pas du boum comme ça. Mais wouz. Enfin voilà quoi. C'est pas le seul changement, puisqu'il y a un animateur de quotidienne qui est présent depuis 21 ans qui a tiré sa révérence. Mais c'est à croire que les bénévoles de Radio FMR préfèrent suivre la fin de PPDA sur TF1 plutôt que la dernière de Rascal, qui animait le 17-19, oula, depuis des temps immémoriaux. Comme quoi c'est vraiment une bande d'ingrats. Donc je dis à Rascal, bonne chance. Parce qu'il était là, il faisait ses quotidiennes. Au moment où je suis rentré à la radio, ça fait longtemps hein, quand même. Et il va vers autre chose. Tout ce que je peux lui souhaiter, c'est que il va faire quelque chose de largement plus intéressant. Ça reste à voir, voilà. Et puis, zouf. Enfin, non. Mais quand je dis que c'est une émission plutôt difficile aujourd'hui... Non, c'est pas ce fond que je voulais, c'est ça. Quand je dis difficile, il faut savoir qu'à 100 mètres de notre studio passe le Tour de France. Non, je déconne pas, le Tour de France... Le plus grand concours de la pédale dopée. Non, je n'ai rien contre les drogués, ni contre les homos.
Non, mais ça va, là. Faut pas les agirer, non.
Ouais, bon, d'accord, ok. Je me fais insulter traitant de tous les noms parce que j'aime pas. Pareil que j'aime pas le sport.
Facho.
Bon, d'accord, ok. Parmi tous les produits que je vais vous citer, lequel est l'intrus? La cocaïne, les hormones de croissance, le vin, les corticoïdes, le PO, la testostérone, le pot belge, le hashish, l'insuline, les amphétamines, l'autotransfusion et le sponsoring.
C'est dur.
J'espère que c'est dur.
Je sais pas.
Cherchez bien.
Au pif, le sponsoring.
Aucun. Ce sont tous des dopants de la grande boucle. Non, le sponsoring aussi est un dopant. Et est un dopant qui, d'ailleurs, à mon avis, ne devrait pas être autorisé. Bon, on continue. Sur les vainqueurs du Tour de France de ces 10 dernières années, un seul n'a pas été convaincu de dopage. Oui, un seul. Il est juste soupçonné d'avoir profité des prestations très spéciales d'une clinique espagnole. Autant dire que ça tourne autant à l'eau claire que l'équipe du supplément week-end. et pour rire.
Et c'est, pour dire, c'est tellement. C'est
les concurrents d'un des sponsors du tour.
Donc, du sport est à l'eau claire, effectivement.
Et c'est tellement le bazar qu'est-ce qu'à part du sport, est-ce qu'on peut citer le vainqueur de l'édition l'année dernière?
Oui.
Vas-y.
Devant les tribunaux ou avant les tribunaux?
Non, le vainqueur sur le papier, qui est officiellement le vainqueur de la saison dernière.
Bah, cite-le toujours, moi, tu sais.
Moi, je sais pas.
Ah, bah voilà.
Et toi, Duce?
C'est bah, pas
attends.
Non.
Ah, attends.
Ah, attends. Spécialiste sport, il est obligé de consulter sa Bible quand même. tu vois à quel point on est tombé dans le Tour de France. Hein.
Ouais.
Donc, c'est, je crois que c'est un espagnol, c'est pas le Valverde ou.
Non. Pour rire, j'ai même pas cherché parmi les vainqueurs du maillot à pois. Ça me fait penser, je sais pas si vous vous souvenez, à cette idée noire de Franquin avec le pauvre cycliste complètement épuisé qui se fait ramasser.
C'est celui qui est pas cette année.
Je peux continuer s'il vous plaît?
Qui a gagné le Giro il y a pas longtemps.
Ah oui, je sais plus. Alors c'est qui?
Alberto Contador.
Contador. Ça
Contador.
Non mais on
Contador.
S'en fout du cycliste, c'est que des pédales. Donc je disais, ça me fait penser à cette idée noire de Franquin avec le pauvre cycliste complètement épuisé qui se fait ramasser par une voiture balai un petit peu spéciale. Et donc les conducteurs qui n'ont pas l'air très humains qui disent ça devient introuvable la viande non trafiquée. On était dans les années 70. Je doute que depuis il y a eu beaucoup de changements. D'un autre côté, ça c'est plutôt la partie du sport. Et je suis légèrement vénère en tant que riverain puisque la mairie a très mal fait son travail d'information. À vrai dire, on n'a même pas eu des flyers dans la boîte aux lettres, c'était chez les commerçants ou sur le pare-brise. La veille, super, génial. Et on ne sait pas exactement à quelle heure on peut encore traverser le boulevard. Tiens, est-ce que vous saviez qu'il était strictement interdit d'écrire Viagra, Pfizer, Laboratoire Fabre ou Herbal Doping sur le parcours? Moi je fais ça tous les matins, je comprends pas, je me suis fait réprimander. S'il le faut tout à l'heure quand nous sortirons de l'émission, il est probable que vous nous reconnaîtriez sur France Bip. Sauf que vous ne reconnaîtrez pas nos visages, on sera noyé dans la foule. Et enfin, vous ne connaissez pas déjà nos visages.
Si vous allez sur la page de l'émission, vous verrez des photos.
Oui, c'est vrai. Ou des caricatures. On sera noyé dans la foule et comme ça va très vite, on prendra exprès pour vous une capture d'écran. Comme ça, pour vous puissiez voir. Mais bon... tout ça, c'est pour vous dire que...
Ouais, surtout, n'écoutez pas du sport. Il dit que des méchancetés.
Spécial dédicace à Daniel Azoc, c'est les 20 ans des guignols cette année. Il se trouve que la semaine dernière, Thomas et moi-même, nous sommes montés à la capitale. Pour aller voir le Japan Expo.
Alors, c'est à Paris.
Et pourquoi Paris et Monta Fukaz. Tout ça pour dire, hein, non, pourquoi Paris? Ben c'est à Paris, donc on n'avait pas trop le choix. Et puis voilà, quoi, je sais pas quoi dire d'autre.
Oui, donc l'information principale était que nous étions à Paris le week-end
voilà,
dernier.
Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de supplément au week-end. Et puis voilà, je change de disque en même temps. Donc, pourquoi Japan Expo? Qu'est-ce que Japan Expo? Bon, d'abord, il faut commencer à savoir que le nom est totalement trompeur.
Quoi, c'est pas un festival sur le Japon?
Comment dire? Entre les dessinateurs anglais, américains, des français, des éditeurs de jeux vidéo, de japonais, soit, mais 4 européens, du jeu de rôle et des cosplays de séries et de films américains, sans compter Dorothée. Excuse-moi, mais...
Attends, Dorothée,
il est où le Japon?
Dorothée, elle a quand même fait une participation à un épisode spécial de Bioman. Alors, franchement, elle a un rapport avec le Japon. Alors, t'es méchant.
Ouais, hein. Ouais. Puis c'est elle qui a quand même passé les premiers dessins animés. Hein.
Et voilà.
Hein, les premiers. Alors, hein, les hein premiers.
Enfin, l'un des plus. Voilà, dans un temps, un âge d'or, c'était pas les premiers.
Attention,
mais,
faites gaffe, parce que sinon, je vais brancher le réseau hein, et on va chercher sur IMDb. Vous allez pas faire vos malins. Enfin, bon. Qu'est-ce que Japan Expo? Donc j'y reviens. Comme l'a dit Yann Nguyen, qui est quand même un spécialiste de l'animation, et c'est pas n'importe qui, c'est quand même le mec qui accompagne Isao Takahata quand il vient en France assez régulièrement. Hein. Comme il a confié à nos amis d'ActuABD, c'est un peu trompeur puisqu'on va à un Japon fantasmé qui a très peu à voir avec la réalité. Pardon, excuse-moi. Je relis. Il utilise une expression plus forte. Cela ressemble à une escroquerie intellectuelle. Peut-être que dans le titre, il aurait fallu autre chose. Par exemple, Toulouse Game Show est un nom bien trouvé. Ben non. Car Japan Expo est une convention. Aux États-Unis d'ailleurs, on dit Comic-Con. C'est une convention protéiforme, puisque les organisateurs lancent plein de salons à côté, et donc ils y ont mis de tout. Le festival avait ses satellites, à savoir Azikult, Cultima et Cultigame, formant un Cultiverse. Ça va pas trop perdu? Ça tombe bien, le plan est immense. Quand on le déplie, il est gigantesque. Et Thomas, est-ce que tu peux dire à peu près à quoi ça correspond chaque de ces trucs?
Alors, je crois que Cultigame, c'est tout ce qui est jeux vidéo. Azicult, c'est tout ce qui est goodies. Puis
même pas, ils ont mis par exemple Tiopan, l'éditeur de... Ah, du sport est équipé. Il est pas venu, mais alors, il se fout de notre gueule.
Alors, Cultima.
Il se dit, petits jeunes avaient mal préparé vos textes.
Cultima,
mais tu crois que je les ai préparés jusqu'à 2h du matin quand même, mes gags.
C'est tout ce qui est SF, Heroic Fantasy et super-héros. Donc voilà, Cultima dans la Japan Expo, déjà. Il y a comme un hic. Mais voilà, bon. Mais après, ça fait super plaisir de les voir, de voir Cultima et de voir les cosplays de Star Wars. Hein. Je dis pas. Après, c'est marrant de voir défiler dans les concours de cosplay officiels, voir des personnages de Final Fantasy ou de Clamp avec des Stormtroopers qui sont à côté. C'est rigolo. Bref.
C'est vrai que c'était assez bizarre. Il y avait même des cosplays du Club Dorothée avec une coupe mal faite.
C'était la vraie, non?
Ah merde, excuse-moi. Comment il l'a dit, Didier, déjà? Starlet Vintage,
voilà.
Oui, ça sent quand même l'ironie derrière. Enfin bon, autre particularité, le Japan Expo, enfin, s'il faut prendre l'ensemble, il faut appeler Cultiverse.
On peut dire aussi la Japan Expo, puis c'est une voilà. Expo.
A lieu dans un lieu complètement isolé du reste de la vraie vie. À la différence du festival d'Angoulême, qui est dispersé dans toute la ville, ou une fête comme celle d'Eos qui a lieu dans le Gers début août, où là ça se passe sur la grande place du village d'Eos et c'est assez fun et rigolo, Japan Expo a lieu dans un parc des expositions en banlieue de Paris. Ça a 10 minutes d'Ambroissy. Sortie de la gare RER, à part les immenses hangars, autour, c'est morne pleine et toute sortie est définitive. Comme nous l'a dit un éditeur dont je tairai le nom par pure amitié, les visiteurs sont obligés de dépenser tout leur budget en une fois, et comme je suis situé juste à côté de la sortie, c'est trop le pied. C'est tout ce qu'il m'a dit.
Ouais, je vois qui c'est.
Donc, sur les lieux, et par rapport à Angoulême...
Oui, la situation géographique, tu veux dire?
Oui, oui, tout
bah,
à
par
fait.
Contre, ouais, c'est vrai que c'est assez isolé. Pour bouffer, bah, t'as pas les petits restos à côté dans la ville, puisque là, il faut aller manger dans la cafette du salon, dans la sandwicherie aussi. Bon, faut dire que le club sandwich, le soda et le dessert, c'est 10 euros. Donc voilà, c'est sympa, quoi. Bon, après, il faut apprécier de manger son sandwich à côté de la sono à fond des cosplayers à côté. Bon, ça, c'est pratique si tu veux faire des photos en avalant deux bouchées de sandwich. Après, si tu veux
être
calme...
Et encore, si t'es pas trop mal situé, hein. On t'a vu quand même grimper sur les tables.
Ouais, si, c'est pour cosplay. Et par contre, le palais des expos, franchement, c'est quelque chose d'énormissime. Hein. Même le décor aux alentours et tout. Bon, après, premier truc que tu vois quand t'arrives, c'est l'énorme file d'otaku sous le cagnard qui font une file d'attente. Mais genre, t'as jamais vu ça? Tu croirais que c'est un concert des Stones?
Il faut signaler quand même qu'il y avait 120 000 entrées payantes.
Ouais.
C'était monstrueux. Y a pas d'autre terme.
Ouais, sur 4 jours, quoi.
Oui.
Oui, mais il y avait des gens qui achetaient les tickets pour 3 jours, 4 jours, quoi. Donc voilà. S'il n'y avait pas l'incroyable fun distillé par les visiteurs costumés, en fait, c'est vrai qu'on n'était pas trop loin de l'hypermarché. Ça faisait un petit peu mal par moment. Vous savez, côté ambiance, des trucs flashy, ouais, spécial promo et tout le reste.
Non, t'exagères là.
Oui, mais quand même. C'était les gros tas de coffrets DVD. Alors, promo spéciale 20 euros pour le salon. Dépêchez-vous.
C'est parce que tu es jaloux, parce que je me suis pris l'intégrale du Ulysse 31 et que tu l'as pas vu.
Ça, on en parlera tout à l'heure dans le bilan shopping. Mais bon, alors qu'avec tous ces gens bariolés, bourrés de bonne humeur et plein de pancartes, Free Hugs. Ouais, Free Hugs, vous savez, c'est le truc.
Bisous.
Bisous. Étreinte à échanger, tout ça, c'était trop mignon. Il y avait plein de chants Free Hugs. Il y avait même des zombies avec Free Bite. Pour moi, ça m'a beaucoup fait rire. C'est un esprit qui est quand même plutôt joyeux, bourré de sucre candy, de joie, de bonne humeur. Et plein de kawaii attitude, oh, c'est trop kiko lol, ouais, trop génial. Et même un truc, alors ça m'a effaré. Il y avait un type avec un pancarte, je recherche, et puis il y avait 3 pseudos. Et puis il y avait marqué que les mecs faisaient des fansubs. Fansubber, recherche, et puis 3 pseudos. comme si les mecs, tu vois, ils y allaient spontanément. C'est aller les voir, tu te retrouves avec Bill Barut de la police de Divix qui t'embarque et puis t'emmène au poste. Alors comme ça, tu diffusais les films sur le net. Donc voilà, donc tout ça, c'était mignon. Il y avait plein de costumes qui étaient absolument superbes, qui retournaient la tête. Il y en avait qui étaient en famille costumés. On n'a pas eu la famille fantastique, mais quand même, il y avait des choses qui valaient vraiment le coup d'œil. Tout ce sucre bourré d'amour, ça donnait envie de prendre sa hache et de faire une belle moisson. Oh oui, oh, c'était trop cool. Thomas, t'as fait les cosplays, c'était comment ?
C'était bien sympa. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la première vision du cosplay que tu as, c'est pas en arrivant au festival, ce n'est pas en descendant du RER, c'est en prenant
le RER
genre Châtelet-Léal et tout, et puis tu vois
Châtelet-Léal, vous êtes sûr de ne pas vous tromper de quai ?
Voilà, tu vois des otaku qui arrivent avec des t-shirts Saint Seiya et tu dis c'est où le pas des expos ? C'est là, bah t'es bien placé. Oh, c'est pour la Japan Expo. Oui, non, mais c'est bon. C'est... Ah, oui, aussi. Oui. Voilà. Ensuite, tu atterris à la sortie Villepinte, donc Palais des Expos. Et là, tu as une horde de cosplayers qui sort avec des queues de lapin, des oreilles de chat de partout, avec des ailes de 3 mètres de long en plumes qu'ils ont, on sait pas trop comment, réussi à mettre dans le RER.
Il y en a franchement qui étaient impressionnants, on se posait des questions quoi, voilà. Personnellement.
Alors par contre après ce qu'il y a de rigolo aussi c'est de voir, il y a de tout hein. Dans les cosplayers, il y a des gamines de 15 ans qui sont à moitié à poil pour être comme les héroïnes de Final Fantasy, t'as des gens qui ont passé un temps infini à se peindre la peau pour faire comme dans World of Warcraft, t'as d'autres qui ont le costume mais qui n'ont pas la pose. D'autres qui sont extravertis mais le costume c'est fait avec du papier d'alu, c'est ça aussi le cosplay,
c'est ça qui est fun ouais. C'est que voilà, c'est on se prend pas complètement au sérieux et tout, même si c'est une équipe de cosplayers français qui ont gagné le championnat mondial, faut savoir qu'on est loin du Japon où là les mecs ils sont à fond etc, ils se critiquent les costumes d'une manière plutôt violente. Là il y en avait quand même des putains de bien foutus.
Oui, alors il y a le dernier jour, on est tombé.
Et ceux qui étaient les mieux foutus, de toute façon, c'était les artistes de J-pop. Mais ça, c'est autre chose, c'est hors catégorie, quoi, ils sont payés pour.
Le dernier jour, au moment de retirer nos bagages à la consigne, on est tombé sur un cosplayer de Trunks. Vous savez, Trunks Dragon Ball Z. Et donc, il était tout content, il dit: oh, je suis trop content, j'espérais pas, je suis tombé sur l'épée officielle de mon personnage, elle était en plus bradée et tout, je suis trop content, bon, maintenant je suis quitte pour faire le fourreau moi-même, mais trop content, j'ai mon épée. C'est les gars qui mais sont après, super heureux.
Ouais, mais après, couture à mort. Voilà, c'est fait maison, c'est fait main. Ça force l'admiration. C'est vrai que le coup des ailes diaphragmes qui faisaient 3,50 m de haut.
Oui, ou même quand ça, tu vois quand on voit les costumes de manga shoujo avec les 45 000 dentelles juste pour le poignet, ben, là c'était en grandeur nature et c'est, voilà, c'était, tu prenais ta claque. Donc allons-y pour les photos. Ouais.
Obligé, je peux pas m'en empêcher. Gwen Stefani Harajuku Girl.
Tell me where you got your. I'm the super alabaster. You're Gianna.
Gwen Stéphanie sur Radio FMR, c'est le supplément week-end spécial des Briefs Japan Expo. À noter quand même que il est 12h28 et la pub sera décalée exceptionnellement. Elle y sera, ne vous inquiétez pas. Je dis ça à la régie finale, sinon ils vont nous engueuler encore. Puisqu'on parle de fashion, de tendance, on va faire le bilan financier. Alors ce qui coûte plus cher, finalement, c'est le transport. Vous faites pas avoir. Les billets multizone, découverte Paris et tout ça, finalement non, il suffit d'avoir les allers-retours pour Villepinte.
Il vaut mieux se renseigner avant plutôt que de demander à un caissier de la RATP.
Ah oui, parce que, comment dire, Paris is so Paris. Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, je voudrais aller en fait à Villepinte. Ben quoi, c'est quelle zone? Ben justement, je vous pose la question. Oh, mais vous me faites chier, c'est l'heure de ma pause. Paris is so Paris. C'est là où on se dit que les Parisiens... ne méritent pas la chance de vivre dans une ville aussi formidable et d'avoir un club de foot aussi bien. Pardon, excusez-moi, alors change de CD. Tout ça pour vous dire que, point de vue bilan financier, étonnamment, on n'a pas fait de folie. Moi j'ai acheté 7 t-shirts. Chantal, ma compagne, un joli petit sac, très joli, très fashion, très tendance. Thomas, t'as acheté quoi?
4 ou 5 t-shirts, Sabrina a pris des porte-clés Totoro et Sergent Kiroro, on a pris des BD, quelques artbooks, mais pas beaucoup.
Toi tu as quand même, moi je m'attendais à dépenser une fortune quand même sur place en artbook et tout ça, et finalement non.
Alors nous on a une excuse, c'est pas que finalement on a rien trouvé, c'est que c'est tellement complet, on a couru à droite à gauche et il faut savoir que c'est quand même, même si c'est assez condensé, c'est très grand. Le temps de tout voir, tu dis, bon allez, ça, je le repère aujourd'hui, j'irai demain. le lendemain. Ah oui, oui, ça, il faut que j'y retourne. Mais là, il faut que j'aille faire l'interview, machin. Donc, bon, j'y reviendrai. Et tu arrives comme un con le dernier jour. T'es claqué de chez claqué. Tu dis, ah, non, c'est bon. Là, j'ai même plus la force d'aller à l'autre bout du festival. Parce que faut s'enquiller l'autre bout du festival. Donc, on est parti samedi. C'était facilement 30 minutes pour aller traverser le festival de part en part. Hein. Donc, c'est. Voilà. C'est quand tu te dis le premier jour, tu repères. Non, faut acheter le premier jour. Comme ça, après, tu n'as même plus le temps d'y aller, d'y retourner. Alors, pour les amateurs de Tsubasa, Captain Tsubasa, le dessin animé, pas Senseiya, l'autre. Donc, y avait des très bons t-shirts de la Moupette, de la Toho, de la New Team et tout. Bon, c'est pour les connaisseurs, hein, ça vous dira peut-être rien aux autres. Faut savoir qu'ils étaient à 35 euros le t-shirt. Hein, pour les plus rares, c'était 45 euros. Ils te distribuent aussi.
On s'est limité dans les prix, hein, quand même, dans les t-shirts qu'on a pris. Voilà.
Alors, faut savoir que, tu vois, le maillot Thomas Price, là, donc Genzo Wakabayashi en VO, ben là, il est pas encore dispo, mais si tu vas sur le site, eh ben bon, il sera certes à 55 euros, mais au moins il sera trouvable. Ouais, super. Voilà. Après, c'était que des. En tout genre, t'avais des peluches, bon, alors évidemment, trop kawaii, t'avais que du Hello Kitty, du Puka. Bon,
le problème voilà, est là, c'est que c'est du déjà vu. Si on cherche bien un Londinium ou un truc comme ça, on retrouve ça. Voilà.
Ouais, c'est du déjà vu, mais par contre, la quantité y était. Alors qu'à Angoulême, t'as plutôt l'impression qu'au niveau goodies, ça s'amenuise d'année en année. Et là, par contre, c'était vraiment un ramassis de beaucoup d'articles en vente. Là, ça, c'est clair.
Moi, je pense qu'Angoulême, de ce côté-là, point de vue goodies, c'est devenu n'importe quoi. On parlera un petit peu après, à l'avenir, un peu plus longtemps, sur l'ambiance. Pourquoi il faut Angoulême? Pourquoi il faut Japan Expo? Et pourquoi les deux, finalement, sont trop différents l'un de l'autre et il y a vraiment un monde à part.
Bah, c'est ça qui est bien, ça se complète. Hein.
Ça se complète, on verra ça. Mais on parlait quand même de bande dessinée. Et on y trouvait un éditeur japonais qui s'appelle Shueisha. Shueisha, c'est le plus gros éditeur au Japon. Ils ont dépassé Shogakukan et Kodansha. Leur aimable confrère concitoyen Shueisha fêtait les 40 ans de leur titre phare Shonen Jump. Shonen Jump, c'est un pavé. Toutes les séries cultes comme City Hunter alias Nicky Larson en France, Saint Seiya alias les Chevaliers du Zodiac, Mazinger Z alias
Goldorak,
Cobra alias
Cobra.
Dragon Ball. Ou en plus récemment, Yu-Gi-Oh!, Death Note, Naruto, One Piece, tout ça a été prépublié dans un hebdomadaire qui s'appelle Shonen Jump, qui s'adresse vraiment aux garçons adolescents, hein, c'est dans le titre Shonen, qui ressemble plus en fait à un immense annuaire téléphonique en vente toutes les semaines, qu'à Spirou et ses rigolos 64 pages par semaine, quoi. Ouais, vous êtes gentils, quoi, les franco-belges. On y trouvait aussi des éditeurs spécialisés Asie comme Kana, alias qui est en fait un spin-off de Dargo, Saka, qui est une collection de Casterman, ou encore Chiaopan, mais aussi d'autres éditeurs comme Glénat ou des fanzines comme Necomics. Donc, on avait des dessinateurs français comme Boulet ou Moebius, et Moebius, personne ne le reconnaissait. Ça, c'est un petit peu déplorable. Hein. Enfin, en même temps, il ne devait pas être mécontent, hein, Jean-Jérôme.
Bah, c'est clair que si c'était
c'est pas la même génération, hein,
voilà,
de toute façon, hein,
pas le même
problème,
public,
hein.
C'est qui ce vieux con là, ouais.
C'est clair que s'il était baladé tout seul comme il l'a fait là à Angoulême, il serait assailli toute part. Là, il était tout seul, il a acheté son bouquin tranquille et tout. C'est clair que la cible des mangas, à part ceux qui ont vu l'expo consacrée à Miyazaki où il y avait aussi Moebius, ils connaissent pas trop Moebius, hein, ou Jean Giraud d'ailleurs.
Alors que d'un autre côté, d'autres dessinateurs comme par exemple Souillon, dont on a passé l'interview il y a 15 jours, on vous a expliqué que il était poursuivi par une horde de fans. Là, c'était pas une horde de fans, c'était l'émeute. Ils sortaient pas de l'espace presse. C'était une horreur. Non, je déconne.
Si, c'était pas une horreur, mais il y avait du monde.
Il y avait du monde. On y trouvait aussi des fanzines, des dessinateurs, et bien évidemment des dessinateurs japonais qui étaient invités. Il y avait Go Nagai, par exemple, le papa de Goldorak. Yuki.
C'est quoi, c'est pas du tout le générique, ça
Goldorak, go!
Oui, en fait, tu chantais Bioman. Et
oui, je me suis planté.
Oh là là,
j'ai pas répété.
Énorme.
J'ai pas répété. Il y avait Yoshiyuki Sadamoto, papa de Evangelion, et Kazuo Koike, papa de Golgo 13. Non, ça n'est pas un robot géant, contrairement aux deux précédents. Golgo 13, c'est un tueur à gages, et c'est aussi le papa de Lady Snowblood et de Crying Freeman.
Et Baby Cart aussi.
Et Baby. Exact. C'est aussi un réalisateur de cinéma. Ben d'ailleurs, Thomas, qui c'est qui était présent et qui c'est qu'on a pu voir et plein de trucs. Quel était l'éditeur qui était en force?
Ah ben, c'est un éditeur en force au niveau
qui avait son propre stand qui était tellement grand que c'était un gros pavé vert dont ils ont oublié de foutre le nom dessus d'ailleurs sur le plan du festival.
Oui, mais je pense qu'on voyait que ça de toute façon. Hein. Donc c'était le stand d'Ankama évidemment, puisqu'il y avait le stand pour la série d'animation. On pouvait découvrir en exclu les épisodes qui seront prochainement diffusés à la rentrée sur Touam. On avait un stand à part pour le collectif Artbook Café Salé, avec les auteurs qui étaient en dédicace. Il y avait aussi un stand, mais c'était hallucinant, pour acheter des articles Ankama. Alors c'était une queue, mais même plus grande que la queue pour le dédicace pour Souillon. C'est-à-dire que les gens faisaient la queue du genre une demi-heure pour aller acheter les articles Ankama.
Des peluches.
Des peluches.
Des peluches, comme dans Dofus. Des comme dans Dofus, des peluches.
Des estibris, des t-shirts. Voilà, c'est assez énorme. Oui, pour revenir
Ce
aussi...
Ce n'est pas assez énorme, c'était énorme.
C'était plutôt énorme. 1 km² de stand, hein, quand même. Alors, pour revenir aussi sur Shonen Jump, c'était une expo, on va dire, qui était classe. Puisqu'il y avait un tapissé, enfin,
Moketé. Enfin, c'est à la japonaise, c'était super design, voilà. Super
Moketé
net.
Moketé rouge, c'était pas, ils en faisaient pas trop.
Alors que les autres, putain, ça y allait à fond.
Par contre, alors il y avait quelques expositions, mais c'était la même exposition d'ailleurs de Let Me Snow Blood qu'on avait déjà pu voir à Angoulême, qui était tout à fait jolie.
C'était tout à fait honorable, mais bon, c'était des copies de planches, la plupart qui étaient exposées. Oh, Lady Snowblood, non, c'était les originaux.
Oui, oui, oui.
C'était les originaux, c'était Shonen Jump ou c'était
voilà.
Les copies.
Lady Snowblood, c'était les originaux, et puis là, au moins, ils n'étaient pas éclairés, on n'avait pas l'impression que c'était dans une cave, hein. C'était avec des beaux éclairages et tout, donc tu pouvais tout voir. Bon, c'était un peu plus chiant pour les photos, puisque tu chopais aussi l'éclairage des néons. Et par contre, moi, en tant que méga fan de Dragon Ball, t'avais déjà une vidéo de Toriyama qui était en train de coloriser et ancrer, cliner le dessin.
Perdait du temps à coloriser et ancrer.
Ouais, ben je crois. D'ailleurs, je sais même pas si c'est lui, mais je crois que c'est lui, Toriyama, quand même, pour ses illustrations. Je pense que ça doit être lui. Assez impressionnant. Et puis, t'avais les planches originales de Dragon Ball. Alors, bah, forcément, là, tu pleures. Hein, tu mitrailles de photos. Ah, c'est trop bien. Après, tu vois le panneau interdit de photographier. Mais là, tu te casses. Voilà.
Côté animation, puisqu'on en parlait Dragon Ball et tout ça, on avait droit à des avant-premières, notamment un film sur l'univers Dot Hack qui était présenté par Kazé. Il y avait plein de choses, il y avait des best-of aussi qui étaient projetés, il y avait un épisode non censuré, par exemple City Hunter, plein de trucs qui étaient plutôt intéressants, hein, mais voilà, il fallait s'enfermer dans une salle et rester assis, et vu le programme qu'on avait, on perdait des trucs, à mon avis, à y aller. Hein.
Ouais,
fallait prévoir à l'avance et fallait ne pas avoir l'occasion de les voir par ailleurs.
C'est le maître mot de notre débrief. De toute façon, c'est pour ça. Il faut savoir exactement ce que tu veux y trouver là-bas. Mmh. Est-ce que tu veux y acheter des goodies? Tu peux facilement passer la moitié de ton séjour là-bas à acheter des goodies.
Ce qui était bien, c'est qu'il y avait des plannings.
Oui.
Les plannings étaient, mais c'était dans le plan qu'il fallait demander.
Voilà, tu peux y aller.
Et le fléchage était inexistant.
Voilà, tu peux aussi y aller pour les dédicaces. Il y avait à boire et à manger là-dessus. Il y avait même des auteurs américains comme Alan Davis qui pouvaient facilement dédicacer des Wonder Woman. Assez rigolo d'ailleurs dans la Japan Expo. Enfin bon, t'avais du boulet. Bon voilà, prix d'assaut, Souillon prix d'assaut. Voilà, on en a parlé. Tu pouvais aussi y aller pour voir justement des films, pour découvrir en exclu, ramener des BD et tout. Tu pouvais,
et il
voilà.
Y avait pas que tout ça.
Et
Japan
non.
Expo, c'est aussi un festival musical sur la musique, plein de groupes de J-pop, alors rap japonais, sucré et tout ça. Vous connaissez? Il y avait par exemple les excellentes Scandales qu'on a croisées qui étaient en uniforme de lycéennes.
Assez impressionnant, toi. Ouais, on a dit des quadruplés. Elles étaient 4, 5
5. Elles sont 5 dans le clip, il me semble. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, musicalement, à ce qui paraît, ça déchirait. Il y avait les Rockers de Rain. Il y avait Beta Flash qui sont. C'est du trip-hop, c'est assez. Waouh! C'est magnifique. Il y a Lost Color People et j'en oublie. Mais voilà, c'est l'acoustique d'un grand hangar. C'est pas franchement génial pour apprécier. Je trouve ça un petit peu dommage. Il y avait évidemment à côté des hyper courus défilés cosplay, ceux des créateurs de mode, quelques-uns japonais, d'autres anglais ou français. Là, on a des t-shirts d'un anglais, Terratag, on en parlera tout à l'heure. C'est le créateur, en fait, du logo
du rieur
et des 11 individuels dans la série Ghost in the Shell Standalone Complex. On l'a interviewé, s'il vous plaît. Et puis, il y avait aussi du catch. Et là, chercher le Japon. Alors, le catch, ça intéressera du sport. Ce sera diffusé sur nos lives. Voilà. on a la confirmation, sera bien diffusé avec des scènes intercalées en animation. Donc ça va être autre chose que la WWF sur RTL 9, ce sera beaucoup plus fun.
Ouais, ce sera un combat de catch aux couleurs des héros de Mutafukaze.
Point de vue jeu vidéo, les vainqueurs des consoles présentes sur place, et ben dans l'ordre, il y avait la Wii, suivi de la PS3, et il y avait un petit peu de Xbox 360, sûrement pas assez japonais à mon avis, hein. C'est pour ça qu'il n'y en avait pas autant que ça. On pouvait s'éclater sur les bandes d'arcade comme celle de Dance Dance Revolution, qui est un jeu de danse où en fait on suit des pavés de couleurs qui sont affichés à l'écran et il faut faire les mêmes pas de danse.
Trop cool.
Ouais, je l'ai pas fait. Mais non, mais franchement, c'est génial. Comme jeu, c'est absolument génial. Surtout pour les voisins du dessous, c'est quelque chose que je recommande. Donc voilà.
Et non, parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas dans le hall principal, genre tu vas voir les dédicaces, tout ce qu'on vous a parlé jusqu'à présent, tu vas dans le hall principal, et puis au moment de partir, le dernier jour, tu dis mais attends, mais c'est quoi ? Il y avait un hall bis, et là tu vois toute la frange de vidéo. Oh, mais on a raté tout ça. Oh, des lapins crétins. Oh, des
lapins crétins. Les lapins encore plus crétins. J'ai essayé, j'ai été alpagué par une hôtesse, mais je me suis pissé dessus de rire. Donc voilà, et on me fait signe qu'il est midi 41 et que ce serait sympa si je donnais la main à la régie pub. Ben allons-y. Et merde.
Cercueil, la seconde capsule du label Brasseuse vient de sortir. Un joli 33 tours vert. Cercueil, c'est un duo de Lille, c'est du trip-hop. Leur album s'appelle Ghost Got Toasted, un album 10 titres avec en guest DJ Donna Summer et les japonais de Satanic Porno Cult Shop.
Il y a du sport qui s'extasie parce que ça y est, la rue est bloquée. Ouais, vous pouvez plus passer devant France. Le canal et tout ça. Tour de France. Tu l'as retrouvé le morceau de Kraftwerk, hein?
Non, je suis désolé. Là, c'est merde, la seule chose que j'ai oubliée.
Moi, je l'ai pas retrouvé. Je suis désolé. Je l'avais prévu pour toi. Mais je me suis dit en transition, c'est sympa.
Juste à côté, quoi.
Ouais, t'as les clés. Wow, ils ont l'habitude de se la faire forcer. Non, je déconne. Pour en revenir donc à ce que l'on a fait pendant le Japan Expo, on était aussi présent pour rencontrer des gens. On a rencontré plein de gens, et aussi bizarre que cela puisse paraître, pas une seule des personnes qu'on a rencontrées sur place n'était japonais.
Oui, alors les japonais qu'il y avait, c'était quand même des grosses pointures.
On n'avait aucune chance. On laisse ça à nos copains d'Actua BD et tout ça. C'est vrai qu'on aurait pu faire interview.
Enfin,
et
nos
tout
copains,
ça.
Notre boss. Hein.
Non, on a juste un lien contractuel. C'est que des fois, on fait des interviews sur Radio FMR et qu'elles sont retranscrites à l'écrit, grâce au talent de Thomas, sur Actua BD, c'est tout. Enfin, grâce au talent de Thomas, c'est parce qu'il a plus d'orthographe que moi. On a interviewé donc Sébastien Ruchet, qui est le président de No Life.
On n'est pas fermé en fait, on n'a pas appelé ça Japan TV ou Samurai TV. Déjà, ça aurait été super ringard au Japon, ça aurait été ridicule.
On a aussi interviewé Run, dessinateur Mutafukaze, une interview qui a eu lieu masquée.
Tu m'as perturbé là. En fait, ouais, donc non, pas maintenant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il porte un masque de catcheur un peu clown, hein, quand même. Et qu'il me regarde fixement avec ses yeux bleus, ça fout les boules, quoi, quelque part.
On a aussi interviewé Tot, qui est le directeur artistique d'Ankama, et qui était très pressé et qui a dit qu'il n'allait pas forcément répondre à nos questions.
Excuse-moi, parce que j'ai vraiment des fautes. Excuse-moi, c'est ma femme. C'est la seule personne à qui je réponds.
On a aussi interviewé donc une dessinatrice d'une nouvelle série qui s'appelle Débazeur, qui s'appelle Raph, donc qui va sortir donc chez Ankama.
Je dessine en A3 pour avoir un dessin assez fin quand on réduit en A6 au final, A5, je sais plus, manga.
A5.
Oui, pardon.
Non, A6, pardon, tu avais raison.
C'est ça, ouais.
Donc techniquement, vous voyez qu'on connaît pas du tout nos mesures ISO. On a aussi donc, on a parlé de Terratax, un designer de vêtements anglais, une interview qui s'est déroulée sans traduction simultanée.
Was put to I'm sorry. I mean bad. So in fact, how did
Et pour terminer, le massacre, on a fait une interview d'une sitcom française de qualité, de très bonne tenue, puisqu'il s'agit de Nerds. Et donc, le DVD va sortir début septembre. Et donc, on a fait une interview forcément en très bon français.
Tu pourrais pas renifler sa petite culotte ?
Cubit, chat.
C'est nul !
Je n'ai rien d'autre à ajouter.
Donc voilà, une interview qui a été d'une très très haute tenue. Voilà, comme on n'en dira pas plus. D'un autre côté, ce qui était tout aussi intéressant, c'est que la CBD, l'Association des critiques de bande dessinée, a renouvelé son partenariat avec Japan Expo pour un deuxième prix Asia CBD mettant en valeur des albums manga, voire asiatiques. Il faut savoir que dans le premier, ils avaient un petit peu râlé parce qu'on avait sélectionné des albums chinois et coréens. Ils ont dit « Ah non, nous, c'est que Japan !» Laurent Méliki, on leur a dit hein. « Mais bien sûr !» Donc, c'est sur l'ensemble des traductions sorties en franco-belgie d'albums asiatiques. Et comme votre serviteur fait partie du jury de spécialistes qui s'y sont essayés, ben forcément, j'ai dû faire un choix. Et comme me l'oblige contractuellement mon statut de membre de la CBD, je me dois de vous prêcher la bonne parole et de vous dire, ben voilà, il faut lire ce bouquin parce qu'il est absolument phénoménal et qu'il est très bien... Donc vous allez voir, attends, je suis en train de caler, voilà, tac. Donc c'est un prix qui est collectif, mais moi je dois défendre le prix que l'on doit, l'album qui a été choisi collectivement, et vous dire, il est très bien. La CBD a remis à l'heureux éditeur une superbe statuette, c'était la mascotte officielle du festival, qui a été éditée en statuette. Ça fait partie des prix Japan Expo Award, ils ont eu les mêmes. Et il faut dire qu'elle est absolument superbe. Thomas, malgré les péripéties, t'étais pas au bon endroit, t'as pu la voir et la photographier. Il faut avouer, c'est un bel objet.
Ah, c'est clair, c'est un bonnet à poussière, ce qui fera bien sur la cheminée du lauréat. Hein.
T'es salaud, c'est une très très belle nymphette quoi, qui était remise.
Ah non, mais c'est un nid à poussière quand même. Tu demanderas à Chantal pour tes figurines.
Donc, moi je vais vous donner le prix, mais aussi le finaliste. C'est-à-dire, on va faire quelque chose un petit peu spécial. En numéro 1, c'est le prix. Mais je vais vous donner les finalistes. Ça n'a rien à voir avec l'ordre des prix. C'est une sélection qui est tout à fait personnelle, même s'il se trouve que ça en est très proche. Voilà. Entre guillemets, c'est un hasard. Mais vous allez voir, en soi, c'est une très très bonne sélection. Mais qui dit palmarès dit top. Et qui dit 5 dit...
Le top 5. Numéro 5.
Alors, La forêt de Miyori de Eiji Oda, qui est sorti aux éditions Milan chez Kanko. Alors, pas de bol, s'il est cinquième, c'est tout simplement parce que les attachés de presse qui sont dans la même ville que nous, qui nous connaissent, qui des fois nous écoutent, ont réussi à me l'envoyer, à me l'expédier. Alors, je leur avais demandé un petit peu en avance. Le jour où on était déjà à Japan Expo. Pas de bol. On n'a pas pu voter pour lui.
Numéro 4.
En numéro 4, Chiori et Shimiko de Daihiro Morooshi, c'est aux éditions Bambou, c'est chez Doki Doki. C'est l'horreur rigolote avec deux jeunes filles, sont deux jeunes lycéennes qui se retrouvent dans des histoires embrigandées, vous savez, des histoires à la Lovecraft, suite à des bouquins. C'est vraiment les pièges de la littérature fantastique, c'est un bouquin dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui a un dessin qui est très doux, assez étonnant.
Ah ouais, c'est des nanas à poil avec des tentacules.
Non, justement, ça n'est pas dans ces, de ce côté-là. On joue avec le folklore japonais, avec la littérature fantastique internationale. C'est vraiment du bonheur, c'est très rigolo et c'est à découvrir. Bah oui, forcément.
Numéro 3.
Le fleuve Shinano, c'est de Kazuo Kamimura et Hideo Okazaki, c'est aux éditions Asuka. C'est donc le fleuve Shinano, c'est par le même auteur qui a créé Lady Snowblood. Donc on y retrouve là aussi une histoire d'un destin d'une femme qui a été troublée, rejetée par les siens et qui décide de se venger d'une manière plus ou moins ignoble. Enfin, elle ne décide pas au début de se venger, le fleuve Shinano. C'est vraiment le chemin tortueux dans le Japon, de la place de la société féminine, où les femmes étaient presque l'équivalent des hommes. Puis ensuite, au moment du début de l'ère Edo, on a mis les hommes en avant parce que c'était mieux, ça se fait comme ça l'occidental. Et puis après, il y a le départ de la servitude. Et c'est assez noir. Mais graphiquement, c'est cinématographiquement superbe. L'histoire est un roman fleuve. C'est très beau, c'est à découvrir. Donc le fleuve Shinano de Kazuo Kamimura et Hideo Okazaki, c'est aux éditions Asuka.
Numéro 2.
Les fils de la terre de Jinpachi Mori et Hideaki Ataji, c'est aux éditions Delcourt, collection Akata. Donc ça a été découvert par Dominique Véret. Et là, c'est quelque chose d'étonnant. C'est un roman, c'est une manga où on apprend un métier. On vous a déjà parlé de Yakitate Japan, où on apprenait le métier de boulanger, qui était le premier du genre traduit en France. Pourtant, un métier de boulanger, c'est étonnant. Hein. Mais c'est celui-là qui avait lancé le genre. Et donc là, le deuxième, Les Fils de la Terre, vous apprend à devenir paysan. Et c'est étonnant parce qu'on y retrouve tout le lyrisme du manga. Et d'un autre côté, il y a quand même une intrigue secondaire puisque le fonctionnaire, l'on dit, vas-y, il faut que tu incites les jeunes à devenir paysans. En fait, il est envoyé à casse-pipe, c'est juste une mesurette, voilà. Vas-y, va te faire massacrer devant la populace. Mais en même temps, on découvre plein de méthodes de culture, on découvre plein de fruits et de légumes qu'on ne connaît pas forcément, on découvre un peu ce que c'est que le métier de paysan et le métier d'agriculteur, pourquoi il y en a qui font ça à l'industriel, pourquoi il y en a qui font ça de manière bio. Vous savez qu'éphémère en plus émerge une AMAP, donc là-dessus on est un petit peu motivé. Les Fils de la Terre de Jinpachi Mori et Hideaki Ataji, c'est aux éditions Delcourt chez Akata. Mais c'est pas lui qui a eu le prix, celui qui a eu le prix,
Numéro 1.
And the winner is Le Visiteur du Sud, le journal de Monsieur O. Le journal de Monsieur O, c'est un coréen du Sud qui s'appelle Ho Yeon Chin. C'est traduit aux éditions Bleu. C'est un ouvrier en bâtiment. C'est plus exactement, c'est un contremaître en bâtiment qui se retrouve à vouloir faire un petit peu plus d'argent. Donc il accède à des missions internationales. Et là, l'international, c'est la Corée du Nord. C'est comment la Corée du Sud et la Corée du Nord se voient après plus de 50 ans de séparation. C'est une découverte. Pourquoi ? Parce que on est dans l'une des dernières dictatures communistes, une dictature extrêmement dure, dans un pays qui se veut vivre en autarcie, mais qui est dans des famines pas possibles, qui évidemment a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à subvenir à certaines choses. Et là, on a la vision d'un visiteur du Sud, c'est-à-dire il est invité en tant que contremaître pour diriger des camarades du Nord qui sont aussi des cousins, des voisins. Ils ont su le faux des liens de parenté, mais ils ne le savent pas. Et là-dessus, c'est un dessin qui n'a rien à voir avec du manga. C'est du dessin de presse, on est proche, non pas de Razer, mais de Pez, de dessinateurs qu'on a dans Le Canard Enchaîné ou dans Charlie Hebdo. Puisque le type n'est pas dessinateur professionnel, c'est un ouvrier du bâtiment qui explique que ses photos ont été confisquées par les douaniers, mais les douaniers n'ont pas pu lui confisquer ses souvenirs. Donc il raconte ses souvenirs de sa propre main, il raconte tout au jour le jour, au fur et à mesure que ça revient, et aussi vite qu'il peut avant que sa mémoire disparaisse. Il y a une émotion là-dedans, elle est palpable, elle est étonnante, c'est la découverte, et Le Visiteur du Sud, le journal de Monsieur O, donc a eu le prix Asie ACBD. C'est une découverte de la Corée du Nord, c'est de Ho Yeon Chin et ça vient de sortir aux éditions Fable Blue. Je ne peux que vous le conseiller parce qu'elle a été choisie par mes pairs et ensuite parce que vraiment, quand j'ai lu le bouquin, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est superbe. On en reparlera à mon avis d'abord sur le blog où je ferai un texte avec tous les liens et où évidemment on parlera des 4 autres qui n'ont pas été retenus pour ce prix-là. Les autres Japan Expo Awards, et on va conclure là, je vous promets, puisqu'il est pratiquement 13h. Le prix du public Virgin, décerné par le public de Virgin Megastore. Le prix de la meilleure bande dessinée asiatique parmi la sélection de Virgin Megastore est allé à High Child, tome 21 de Yusuke Morata et Riichiro Inagaki. C'est sorti chez Glénat, donc en plus ils ont raflé pas mal de trucs chez Glénat de ce côté-là. Le grand prix meilleure bande dessinée asiatique toutes catégories confondues, 20th Century Boys de Naoki Urasawa chez Panini Comics, qu'on connaît en tant qu'auteur de
Monster.
Eh, du sport d'un coup qui fait ah ouais.
Ouais, ouais. Puis d'ailleurs il faut savoir que ça a été adapté au cinéma
et aussi en série animée.
Film,
je te rassure, Monster aussi va être adapté
sortir,
au cinéma.
Le film vient de sortir quoi, au Japon quoi.
En live.
Hein.
Monster aussi sera en live. Là, on attend de voir. le prix ouais. Meilleur shonen bande dessinée pour adolescents masculins est allé à One Piece de Eiichiro Oda. Ah oui, forcément, surtout que l'auteur était présent. Le prix du meilleur shoujo bande dessinée destiné à un public jeune féminin est allé à Je ne suis pas un ange de Ai Yasawa chez Delcourt. Le prix du meilleur scénar.
C'est une actrice de Nana. Hein.
Oui, en plus. Je crois que tu as tout à fait raison. Prix du meilleur seinen, donc bande dessinée destinée à de jeunes adultes. Enfin, jeunes adultes si on veut. Hubel Blatt de Heitoruji Chiono. Chiono, ouais. Chiono, c'est donc chez Kiyon, qui est un petit éditeur. Le prix du meilleur Moriawase, bande dessinée asiatique hors norme, n'entrant pas dans les catégories précédentes. Le jeu du chat et de la souris par Setona Mizushiro, c'est sorti chez Azuka, sans compter des prix de Ah merci d'être venu, qui sont allés à Kazuo Koike, Go Nagai et Takeshi Obata. On en a déjà parlé, voilà. Takeshi Obata, non, excusez-moi, je l'ai pas annoncé, c'est l'auteur de Death Note.
Non, dessinateur.
Dessinateur.
Et qui refuse de se faire photographier.
C'est pas le seul japonais qui refuse de se faire photographier.
Enfin, c'était le seul qui était là qui n'a pas de photo.
Il y en avait d'autres. Et pour tous ceux qui se sentent frustrés de n'avoir pu y être, sachez qu'en novembre aura lieu la seconde édition du Toulouse Game Show.
Ouais.
Sauf que là, on y parlera, on y sera.
Et on vaincra.
Je pense même qu'on sera en direct. Voilà. Je ne saurais trop remercier pour ma part Marc, Solange et surtout Laurent Melikian pour leur aide. Et pour nous avoir aidé à ne pas nous perdre dans cette terre étrangère qu'on appelle Paris, et pour leur hospitalité.
Moi je remercie Audrey et Ségolène pour leur accueil muy simpatico, et on espère les revoir très bientôt.
Je crois qu'on va aller au cinéma.
On va parler BD avant, on va continuer dans le manga peut-être.
Oh oui. Alors, comme il est pratiquement 13h, donc on va passer à la bande dessinée. Et pour une fois, c'est pas moi qui vais parler de bande dessinée. Hein, voilà. Et donc, Thomas, de quoi vas-tu parler ?
On va parler de Chevalier en armure.
Ah non ! Non, pas ça ! Non, putain, non ! Oh ! Non, pas les Chevaliers du Zodiac ! Oh !
Et si ! Attends, je m'entends pas. Ouais, merci.
Mais c'est ignoble ! C'est affreux !
Ben ouais.
C'est indécent.
Ben oui.
Et en plus cette princesse elle est conne.
Ah c'est plus la même. Parce que là
ça y est c'est une autre. Cette fois-ci elle se jette pas toute seule dans la gueule du
non.
loup. Les loups viennent le chercher.
Non. Oui voilà surtout quand Athéna choisit de te réincarner dans ton propre corps il faut savoir que tu es un peu prédisposé à te faire enlever ou à se sacrifier et tout.
C'est clair.
Donc nous sommes 200 ans avant la série originelle et il s'agit
ouais,
de...
Ouais, il y a 200 ans déjà, ils se faisaient chier.
Et oui, puisque les chevaliers, les constellations s'incarnent dans plusieurs chevaliers au fil des temps, depuis les temps immémoriaux antiques. Donc là, il s'agit de Saint Seiya, The Lost Canvas,
pour
la
moi,
légende d'Hadès.
Pour comme... moi, c'est Antok.
Antok. Alors, en Europe, au XVIIIe siècle, le seigneur Hadès se réincarne en vue d'attaquer le sanctuaire et les défenseurs de la déesse Athéna, suivi de ses 108 spectres. Donc évidemment, c'est Répétition bis repetita placent 200 ans avant de la série Hades que nous connaissons tous, qui a été partiellement adaptée en animé et qui est sortie aussi sous le nom Saint Seiya épisode G. Suivez un peu. Il choisit le corps d'un jeune peintre, donc Hades, choisit le rôle d'un jeune peintre au cœur pur qui s'appelle Alone, meilleur ami de Tenma, futur chevalier Pégase. La sœur d'Alone, Sacha, adoptée au sanctuaire en Grèce, n'est autre que la réincarnation d'Athéna, le monde est petit. Alors, il faut savoir que dans... Alors, vous allez me dire, encore une nouvelle série de Saint Seiya, oh là là, on en a marre que tu pars toujours de Saint Seiya, ça, on n'en peut plus. Eh bien, effectivement, j'avais pas mal parlé...
Attends, tu veux dire que c'est une loi des séries ?
Les scénaristes se suivent et se ressemblent, les héros s'en sortent toujours, et on aime toujours ça, c'est la loi des séries.
Oh, un nouveau jingle.
Non, il est vieux celui-là.
D'accord.
C'est la première fois que j'utilise en 5 ans, c'est tout.
Tiens, feuillette, voilà.
Oh non ! Mais l'horrible, il me tend ça et je vois pas.
Et donc, en fait, vous allez me dire, enfin, encore une déclinaison de Saint Seiya. Nous avions parlé de Saint Seiya épisode G, qui avait été dessiné par un autre dessinateur, mais toujours sur une trame de Kurumada. Alors, sur les deux premiers tomes, j'avais beaucoup parlé en bien de cette série. Il se trouve qu'après, ça s'est gâté, puisqu'on est retombé dans le bon vieux travers de Kurumada, qui est « Oh là là, mais il y a d'autres chevaliers qui vont arriver. Oh, il était caché derrière le rocher, je ne l'avais pas vu. Oh, mais tu me défies en duel, je vais te pulvériser. Mais non, tu n'es qu'un chevalier qui est de moindre envergure que moi, le spectre d'Hadès. Comment fais-tu pour me tenir tête ? Oh, mais c'est parce que je défends une cause juste et que je peux enflammer mon cosmos comme je peux. Oh là là, mais nous vous avions sous-estimé, nous reviendrons. Et là, il y a d'autres spectres qui arrivent. Oh, mais toi, je te vois sans rien faire. Tiens, on va faire un combat. Et bis repetita placent encore une fois. Donc, c'est un peu l'effet Kurumada de merde. Hein,
non, c'est un écho.
Tu dis, oh là là, mais c'est encore une fois toujours la même chose. Eh bien non, cette fois-ci, alors déjà c'est dessiné par une nana, donc tu vois...
Ah, c'est flagrant.
Que c'est ouais, extrêmement
c'est
féminin.
C'est flagrant, c'est un peu shoujo et tout. Ouais. Les nanas sont gracieuses et jolies, et les mecs sont presque bandants.
Oui, alors c'est une particularité c'est une particularité à la base de Saint Seiya, puisque même dans la série de Kurumada, on pouvait dire aussi que c'était moche, que c'était mal dessiné, que c'était merdique. Mais on voyait quand même que les personnages étaient assez féminins. La série Saint Seiya épisode G, hormis le fait que c'était un fatras de noir de partout, avec des étincelles, des fois c'était un peu trouvé Charlie, tu savais pas trop où était la tête, où était le bras et tout. C'était les gars complètement disproportionnés et tout tordus.
Et c'est un fan die hard quand même hein, qui dit ça.
Voilà, alors c'est pour ça que j'ai un peu laissé tomber l'autre série, mais là cette fois-ci tu vois que c'est une nana qui dessine, parce que tu vois que les personnages sont un peu plus vêtus de toge qu'avant, c'était pour faire pour que ça volette un peu au vent, dire, oh là
ouais
là,
ça fait grec,
oui ça fait voilà,
ça fait Tarlouse,
ouais si tu veux, bon après c'est vrai que t'es un peu dans cette thématique aujourd'hui après les cyclistes
Ouais, je vais me faire flinguer par les copains à la sortie du Hells Angels YMCA band.
Et donc là, on a l'impression d'avoir enfin une vraie histoire. On ne sait pas comment ça va continuer, mais il faut dire que dans les deux premiers tomes, c'est assez convaincant. Il nous expose pas la figure. Tous les chevaliers sont présentés dès les 10 premières pages. Là, tu as juste l'ancienne réincarnation de chevalier Pégase qu'on verra après, mais tous les autres, on les voit pas. Les chevaliers d'or, tu les vois juste en moment donné, ils sont tous ensemble, mais il y en a deux qui sont développés pour l'instant. Tu dis, oh tiens, est-ce que les enculés sont vraiment des enculés aussi 200 ans avant ? Est-ce que les ancêtres sont aussi nobles que ceux qu'on connaît ensuite dans l'ère moderne ? Ça, c'est assez intéressant de voir ça. À quel point est-ce que les schémas vont se répéter, etc. Bon, on espère évidemment que ça va pas trop se répéter non plus pour avoir un peu de surprise, mais bon, on verra ça. Alors ça reste quand même, malgré tout, une excellente surprise. Saint Seiya The Lost Canvas. Donc deux tomes pour l'instant édités, c'est dessiné par Shiori Teshirogi sur une trame de Masami Kurumada. On espère bien entendu qu'elle ne respectera pas trop la trame de départ, puisqu'on a vu à quel point ça devenait de la soupe immonde à chaque fois, et c'est édité chez Kurokawa.
J'y crois pas, il est 13h04 et on entame seulement maintenant le cinéma.
Ta-da-da.
La chronique cinéma vous est présentée en Dolby Mono sur Onde par Thomas et du sport.
Alors, on commence par de l'angoissant, du Shyamalan, on commence par des phénomènes.
Phénomènes. Il voit des choses mortes.
Voilà, c'est fait en or.
Pardon.
Un film de M. Night Shyamalan avec Mark Wahlberg.
Ouais.
Zoé Deschanel.
Ouais.
Xavier, Zoé Deschanel, a joué dans quoi?
La pub Chanel.
H2G2, merci.
Oh merde, c'était elle.
Eh ben oui.
Oh non, je vais me damner.
Et également John Leguizamo.
Ouais.
Une vague de suicides massifs frappe Central Park et les grandes villes américaines. Ces phénomènes contaminent d'autres régions. Les citoyens sont contraints de fuir. Est-ce une attaque bactériologique, un attentat terroriste, une émission de gaz à grande échelle,
ou une émission télé tout simplement, la fin de Friends,
ou quelque chose de beaucoup plus simple? Alors justement, le film va commencer à changer un petit peu au bout de la moitié, hein, donc on va pas effectivement vous dévoiler, on va pas vous dire de quoi il retourne évidemment. Surtout que pour une fois les médias ont fait un gros effort de ce côté-là, personne n'a moufté, bon à part sur les sites de spoil évidemment. Ce n'est pas du tout notre habitude ici de spoiler les films.
Alors, non.
Ce qui est sûr, c'est que Shyamalan, tu aimes ou tu détestes, mais là, c'est il nous fait du Shyamalan. Donc ceux qui détestent détesteront et ceux qui aiment aimeront. C'est dans la lignée exacte de ses précédents films. Donc après les fantômes, après le super-héros, après les bois maudits, après les extraterrestres ou les sirènes, mais maintenant on a les zombies suicidaires. Les gens se transforment un peu en cadavres vivants et puis après ils trouvent un moyen pour se suicider. Donc de ce côté-là, Shyamalan a eu les coups des franges pour aller un peu plus dans le gore que d'habitude. Alors là par contre, il y a des plans qui sont assez impressionnants, puisque bon, les personnes se figent en plein milieu de la rue et puis ils trouvent un moyen pour se suicider. Donc ça peut être une baguette qu'il y a dans les cheveux pour s'empaler la gorge, ou une tondeuse pour se mettre... pour se foutre par terre, pour se faire tomber.
C'est plein de méthodes qu'on aimerait mieux ne pas connaître, c'est ça?
C'est juste qu'il n'y a pas de off, en fait. Tu montres tout. En plus, c'est du Shyamalan.
Ah, carrément. Enfin, parce que ça, ils évitaient quand même, justement, de montrer des scènes de suicide comme ça. Le cinéma hollywoodien, c'était off.
Ouais. Mais en fait, ce qui choque aussi, c'est que Shyamalan, en fait, c'est pas quelqu'un qui va faire comme du Michael Bay avec surdécoupé et puis des gros effets. En fait, ce sont des scènes de dialogue avec une caméra très posée, des travelling. Tu vois que le mec, il sait manier les caméras, mais c'est toujours au service de l'histoire et tout, des personnages. Et là, tu vois que ça tranche, quoi. Il y a un personnage qui commence à se figer et puis tac. Ah ouais, c'est ouh. Et pendant tout le film, tu vois encore d'autres suicides, tous plus originaux les uns que les autres, puisque il y a quelqu'un qui va trouver une carabine ou voilà, l'autre qui va se jeter du haut d'un immeuble. Et à chaque fois, tu te dis bon, on sait comment ça va finir, il va nous l'épargner. Mais en fait, non, il continue à filmer les suicides vraiment de manière frontale. Et voilà.
Ça doit retourner.
Ça doit un peu retourner et c'est jamais lassant, en fait. Il s'arrange toujours, ce mec, il est doué, tu te dis pas, ouais, bon, surenchère, bah jamais. Mais qu'est-ce de quoi il retourne? Tu te poses la question jusqu'à la fin. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que il rechigne pas à toujours traiter son thème de prédilection, c'est la famille et l'identité. Bon, l'identité qui était propre à Incassable ou des personnages qui se cherchaient, qui trouvaient la réponse dans un twist final dont il a le secret. Là en fait c'est surtout la famille, c'est un couple qui essaie de se reconstruire et tout. Alors c'est toujours une manière très focalisée sur quelques personnages, 2-3, et tu sais par le biais de l'histoire, par exemple une info qu'ils entendent à la radio, que c'est à l'échelle mondiale mais qui va jamais te montrer à l'échelle mondiale, ça va rester focalisé sur une petite communauté de personnages, et ça qui est plaisant chez lui. Et c'est vrai qu'il a pas son pareil pour créer de l'angoisse en filmant un truc qu'on t'a fait banal dans Sixième Sens, c'était des poignées de porte avec le reflet, tu savais pas trop sur quoi ça allait tomber. Dans Incassable, c'était juste des plans vus de dessus de criminels qui allaient commettre leur crime et tout. Mais là, c'est ils filment juste des rues désertes, des buissons, des vents, enfin des courants d'air.
Pardon.
Dans les mains de quelqu'un d'autre, tu te dirais mais c'est absolument ridicule. Il faut dire que Shyamalan, il a jamais peur du ridicule. La jeune fille de l'eau, c'est son film le plus décrié. C'est un gars super naïf qui a voulu régler ses comptes avec certaines critiques cinéma. Et si tu fais abstraction du côté naïf, le film est très très bien. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que, bon, la résolution de l'intrigue... Par contre, le film, t'as un peu flippé, quoi. Donc c'est ça qui est bien aussi chez Shyamalan, c'est ce mélange de dextérité sans pareil pour filmer l'angoisse et tout. Et on va dire des résolutions d'intrigue généralement assez naïves ou premier degré. Donc c'est un film évidemment phénomène qu'on vous conseille. Hein. C'est encore une claque. Si vous aimez Shyamalan, allez-y les yeux fermés. Phénomène de M. Night Shyamalan avec Mark Wahlberg, excellent. Zoé Deschanel, excellente. Et John Leguizamo.
Changement d'ambiance et vive le retour de FIP. Dommage qu'ils aient pas supprimé le move par la même occasion. Un petit peu de FIP.
Allez.
Charlie Parker.
Un film, un autre. Et là, il s'agit du, bon, on va dire peut-être le polar de l'été, mais enfin bon, on va rester poli quand même. Il s'agit de Street Kings, qui est sous-titré en français. Alors toujours la manie qu'ils ont de traduire en ne traduisant pas du tout, quoi. Hein, au cœur de la nuit, je crois que ça s'appelle, ou au bout de la nuit, l'un des deux.
Au bout de la nuit, ouais.
Au bout de la nuit, donc.
Au cœur de la nuit, on a vérifié.
Ouais, bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, quoi. Le deuxième film de David Ayer en tant que réalisateur, qui avait déjà réalisé en 2006, Bad Times. Bad Times avec Christian Bale. Ah ah! Et Eva Longoria! Oh oh! Qui passera d'ailleurs sur Canal+ mardi prochain à 20h50, hein, bon, pour ceux que ça intéresse, sur Canal+ Cinéma. David Ayer qui a par ailleurs une carrière de scénariste avant de passer derrière la caméra, scénariste sur SWAT, le film de Clark Gordon, de Clark Johnson, Dark Blue. L'excellent polar avec Kurt Russell. Ouais, et Training Day aussi, hein. Ouais.
Tu vois la patte
recul, tout de suite il y a le petit truc, et là pour ce film Street Kings, donc il n'est pas scénariste, réalisateur, et il a su s'entourer, il a su intégrer dans son crew ni plus ni moins que James Ellroy,
s'il vous plaît.
Alors James Ellroy, dont c'est une histoire, dont le film est basé sur une histoire d'Ellroy. Mais au scénario, bien, il y a également Kurt Wimmer et Jamie Moss, hein, qui est Paul James Ellroy pour la réalisation, enfin pour le scénario. Au niveau du casting, alors là c'est casting 5 étoiles, hein, sans problème. Il a su également choisir les bons acteurs, les types qui vont bien rendre et tout. Alors mention spéciale de toute façon pour Keanu Reeves. L'inspecteur Tom Ludlow qui joue le rôle principal dans le film, un flic à la ramasse complètement désabusé, qui s'achète des petites mignonnettes de vodka et tout, qui picole la vodka tout en conduisant sa bagnole, parce que bon, il est un petit peu déprimé vu que 3 ans plus tôt sa femme est morte alors qu'elle était en train de baiser avec un autre mec et tout, quoi, et elle crève pendant le truc, et puis le mec il la balance le mec la balance sur le bord de la route et tout, il l'amène même pas à l'hosto, tu vois, quoi. Donc elle crève sur le bas-côté, enfin bon, le truc bien trash et tout, qui est flic, donc un petit peu en dehors des lois, c'est-à-dire que lui, bon bah, pour arriver à ses fins et tout, bon bah, il utilise des méthodes qui sont complètement réprouvées dans la police moderne, hein,
à la Harry Callahan.
Ouais, vraiment, quoi, sans problème, hein, vraiment sans problème, quoi. Je dégaine d'abord et puis je parle ensuite, quoi. C'est vraiment ça, hein, c'est dans la scène d'introduction, on le voit bien, il y a pas de problème, hein. Disons dans la résolution de la première enquête pour montrer un petit peu comment il fonctionne. Son patron, c'est Forest Whitaker. Excellent, vraiment excellent. Bon, on pourrait considérer que Forest Whitaker souvent en fait trop, surjoue, mais il est comme ça, c'est comme ça. Il est comme ça, tout simplement. Et également en mention spéciale à Hugh Laurie, Dr House, hein, qui dans le rôle du flic de la brigade de la police des polices, on va dire, hein, est chargé, bah, de démanteler un petit peu cette espèce de brigade dont le patron est Forest Whitaker et qui a sous ses ordres Keanu Reeves, mais également Jay Moore, John Corbett et Amory Nolasco. Amory Nolasco, c'est Sucré dans Prison Break. John Corbett, c'est le visiteur, et d'autres mariages à la grecque également. Jay Moore, c'est le personnage principal dans cette excellente série de Ron Silver qui s'appelle Action, l'histoire d'un producteur Hollywood et tout, bien délirant. Et il y a également Chris Evans hein, qui joue le rôle d'un jeune détective qui va charger, qui va un petit peu épauler Keanu Reeves dans la résolution de son enquête, mais plutôt qui va essayer de sortir un petit peu de la merde, parce que faut dire que Keanu Reeves est vraiment un petit peu dans la merde. D'ailleurs, mention spéciale à Keanu Reeves aussi, parce que c'est certainement le seul film. Je crois que dans Matrix, il rigole un petit peu de temps en temps, il sourit et tout. Alors que là, du début jusqu'à la fin, il ne sourit pas du tout, mais pas un pélo.
Écoute Coco, on t'a trouvé un bon film, t'as fait des merdes, alors maintenant, tu joues bien l'acteur, alors jusqu'au bout.
Il a même un espèce de rictus qu'il rapprocherait de Chris Cooper, hein, je sais pas si tu vois quel acteur c'est. Oui. Il est mimique comme ça, c'est vraiment remarquable quand même. Alors l'histoire, ça se passe dans le Los Angeles d'aujourd'hui. Au départ, l'histoire originale de James Ellroy est située dans le Los Angeles post-92, c'est-à-dire juste après l'affaire Rodney King. Donc, il fait très chaud, ça en était très chaud, tout le monde est bien remonté et tout. Et ça se ressent bien hein, dans la description que fait David Ayer de Los Angeles. Le précédent film, hein, Bad Times, se passe également dans cette ville-là. Et on peut dire que l'histoire est vraiment bien amenée. On se retrouve bien dans l'univers un petit peu glauque comme ça hein, de James Ellroy. Alors mention spéciale à Hugh Laurie avec en plus un petit clin d'œil à Dr House. Et là c'est flagrant hein, parce que Hugh Laurie rencontre Keanu Reeves dans le film quand Keanu Reeves va se faire soigner parce que il s'est fait casser la gueule comme c'est pas permis. Ouais. Il va à l'hôpital se faire soigner un petit peu les bobos qu'il a et tout. Il est en train de faire un câlin avec l'infirmière qui est sa petite copine. Il a tiré le rideau, tu sais, le rideau qui sépare les différents lits et tout, quoi. Et puis hop, t'as le rideau qui se retire et puis qui c'est que tu vois apparaître assis sur un fauteuil à roulettes et tout. Le Dr House, bien sûr, qui commence un petit peu l'introspection du personnage de Keanu Reeves, à savoir le détective Tom Ludlow. Alors c'est très assez trash quand même, hein, c'est bien rentre dedans, quoi. C'est du bon polar bien nerveux, on s'emmerde pas du début jusqu'à la fin, et la fin, je peux dire, elle est pas joyeuse. De toute façon, c'est du James Ellroy, donc laisse tomber, il n'y a pas de happy end. Le film est vraiment très très bien. Là, franchement, à voir en VO, bien entendu, hein, ça coule de source. Il est encore à l'affiche, soit en version française, soit en version originale. Enfin, allez-y quand même, c'est l'un des bons petits polars de l'été, et il n'y en a pas tant que ça. Hein. Vite fait, la carrière d'Ellroy au cinéma, les différentes adaptations de James Ellroy au cinéma, eh bien, ça a commencé avec Cop, le film de James B. Harris en 88, hein, qui était tiré d'un des bouquins de la première trilogie, la première trilogie de la trilogie de Lloyd Hopkins. Ensuite, il a fait un épisode de Fallen Angel, c'est la musique qu'on écoutait avant. L'épisode, c'est Since I Don't Have You, avec Gary Buzet et James Woods. James Woods, qui était déjà dans Cop, puisque c'est le personnage principal, un des personnages principaux, avec l'énorme Brian Dennehy. LA Confidential, ça, c'est même pas la peine d'en causer. 97, l'Oscar pour Kim Basinger, tout le truc. Il y a eu ce téléfilm dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, qui était passé sur TF6, qui tirait du premier livre d'Ellroy, Brown's Requiem, avec Michael Rooker dans le rôle de Fritz Brown, mais également Brian James, que des seconds rôles vachement appétissants et très très bien rendus, il faut reconnaître, hein, pour un téléfilm. Il a fait également, comme adaptation, quoi, ça c'est un téléfilm, c'est Stay Clean en 2002, qui est tiré d'un bouquin qui est un petit peu à part dans sa bibliographie, car il s'agit d'un tueur sur la route, Killer on the Road, qui était un bouquin de commande en fait, qu'on lui avait commandé parce que à l'époque Killer on the Road est sorti, je crois, au milieu des années 90, et c'est l'histoire d'un serial killer. Il s'est inspiré un petit peu de deux serial killers qui avaient réellement existé, Otis Toole et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, et donc on lui avait demandé de faire un bouquin sur un serial killer, alors que lui ça n'intéressait pas tellement, mais bon, il dit bon, bah, ok, allez, ça roule. Dark Blue donc aussi, hein, qui est tiré d'une nouvelle d'El Roy, le Black Dahlia de 2006 de Brian De Palma, on va pas en parler plus.
Ouais, faut l'oublier, okay. Il n'existe pas.
Et le prochain, mais qui subit les affres de la pré-production et du casting changeant, c'est l'épisode final du 4 heures de Los Angeles, c'est-à-dire dont LA Confidential est le troisième. Le dernier, c'est White Jazz, qui devrait sortir l'année prochaine,
ouais,
avec Joe Carnahan comme réalisateur.
Ah, ouais.
Mais par contre, on a appris que les deux acteurs principaux qui étaient pressentis pour avoir les deux rôles principaux dans White Jazz se sont cassés. Tout d'abord Chris Pine, parce que Chris Pine a préféré tourner le rôle de Captain Kirk jeune dans le prochain Star Trek
de
J.J. Abrams. Et que George what else, cloné, qui faisait partie de la distribution également, eh bien, a dit ouais, si je tire, je me tire aussi, quoi. Et donc, George Clooney, out, non, je fais plus le film, laisse tomber. Alors donc, pour l'instant, on n'en sait pas plus, hein, mais bon, ça pourrait être peut-être le bon polar de l'été 89, de 2009, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus, hein, mais en tout cas, c'est quand même appétissant, hein, White Jazz. Bon bouquin et Joe Carnahan comme réalisateur, là ça peut quand même vachement le faire. En tout cas, je répète, hein, donc Street Kings ou Au bout de la nuit, au cœur de la nuit, de David Ayer, qui passe en ce moment, ça vaut le coup, c'est vraiment très 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 bien. De la télé à présent.
Attends, petite coupure, on respire un peu.
Ouais, et ensuite.
Un Nothing Call, justement, extrait de la série Fallen Angels. Ça sent l'huile de coude synthétique là.
Les deux, ah, tout à fait.
Le dopage idéal.
Amélioration.
Et ils ont pas encore trouvé, hein. 13h et 24 minutes et ouais. Du sport va parler d'un dopage très particulier.
Ça vous rappelle votre jeunesse quand vous étiez coincé devant votre télé. Alors pour ceux dans les années 80, c'était devant la 5. Mais pour ceux dans les années 70,
c'était la 1.
C'était la 2, Antenne 2. C'était Antenne 2. Hein. Antenne
c'était
2
pas
qui
dans
avait...
Samedi est à vous.
Non, c'était Antenne 2. Donc la série originale Super Jamie ou Bionic Woman version originale. Elle est sortie en 76, donc début de l'année 76 sur ABC, la chaîne américaine, et en fin d'année 76 sur Antenne 2. Là, ils avaient fait très fort, hein, la même année, donc on pouvait voir la version française de Super Jamie avec Lindsay Wagner. C'est d'ailleurs un rôle qui lui a collé à la peau. On l'a tout le temps, à l'instar de Linda Carter, hein, Wonder Woman, on l'a tout le temps vu.
Elizabeth Montgomery aussi, ils n'ont jamais réussi à s'en sortir.
Voilà, encore que Elizabeth Montgomery a réussi plus ou moins quoi, à faire d'autres petites choses très sympathiques.
C'est qui Liz Montgomery?
Ma sorcière Bewitched. Ma sorcière bien aimée. Et donc, pour Lindsay Wagner, Super Jamie, bon, ça a été vraiment la galère, la catastrophe et tout. Elle a rien fait après ça. Hein. Elle a fait que ça. Elle est connue que pour ça. Bon, après, on a retourné des téléfilms avec la rencontre de Super Jamie et de Steve Austin. Les Majors, donc, avec l'homme qui valait 3 milliards et Super Jamie, le mariage. Il y a eu le mariage aussi. Enfin, bon, la totale, hein, des téléfilms dans les années 80. La saison, la série originale a duré 3 saisons, donc de 76 à 79, et c'est quand même une série qui avait été créée par Kenneth Johnson. Kenneth Johnson, dont je vous avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'est l'homme qui valait 3 milliards, bien sûr, hein, c'est sa première production.
V.
3 milliards en fait. 3 milliards en ancien franc, hein, parce que bon, ben, le titre original,
6 million dollar man.
Alors, le dollar à 5 francs, tu fais le calcul.
Ah oui, hein, c'est pas le dollar à 1 demi-euro maintenant.
Ça fait 30 millions, donc 30 millions en ancien franc, c'est 3 milliards. Ouais, facile. Il avait fait Hulk aussi, bien sûr, et surtout V dans les années 80. La nouvelle série, eh bien, Bionic Woman, qui n'a pas connu le succès aux États-Unis, puisque au bout de 8 épisodes et un petit peu à cause, enfin disons,
enfin la grève a été une bonne occasion.
C'était la bonne occasion, pour NBC de dire non arrête, non ça suffit, c'est bon et tout, parce que
non, finalement même les Anglais à Itico là dont on fait le remake là, c'est mieux. Ah non, finalement c'est pas bien.
Non, parce que bon, au départ, ça partait sur de bonnes bases. Hein, ça a été produit, la nouvelle série Bionic Woman, par David Hake, qui est pas forcément un spécialiste, mais qui, par la force des choses, on pourrait dire que c'est un spécialiste de la reprise de vieilles séries, puisque c'est lui qui avait également instillé avec Ronald D. Moore la reprise de Battlestar Galactica. Donc,
S'il vous plaît.
Ça pose quand même le personnage. Et il faut dire que sur NBC, à l'occasion de la diffusion du pilote, il y avait quand même 14 millions de téléspectateurs. Donc il y avait du monde derrière le petit écran. Mais malheureusement, au fur et à mesure de la diffusion des épisodes, eh bien, ça s'est effiloché pour arriver à 6 millions de téléspectateurs. Trop peu pour la grosse chaîne généraliste qu'est NBC, qui est quand même troisième, hein, dans l'ordre des grandes chaînes généralistes aux États-Unis. C'est la troisième, quoi. Il y a d'abord CBS qui cartonne à fond les manettes, puis il y a ABC.
ABC actuellement est devant NBC, ouais, t'as raison. Et puis et Fox et les réseaux régionaux comme CW et tout le reste.
Oui, mais ça c'est plus les trucs sur, sur le câble, sur le
pay-per-view. Ah non, CW c'est un réseau hertz, hein, qui arrive pas à décoller, mais bon.
Alors la nouvelle série, bien, le personnage principal est interprété par une Anglaise qui s'appelle Michelle Ryan. Quelques petites différences, hein, c'est-à-dire que dans le pilote que vous allez voir demain, c'est sur TF1 à partir de 15h. Ah, c'est les horaires. Bon,
c'est familial.
Ouais, laisse tomber. La série est un peu plus sombre que la série originale.
Largement.
La différence dans la série originale, Jamie Sommers est institutrice dans une base aérienne, donc c'est pour ça que bon, bah après on peut lui greffer des machins et tout parce qu'ils ont toute la technologie. Les militaires sont toujours en avance sur les civils, tu le sais bien quoi. Là, ben bah, c'est un petit peu différent et tout. Elle est serveuse dans un café, elle élève seule sa petite fille et tout. Enfin bref quoi. Mais d'après les dires de ceux qui ont pu voir cette série et différentes critiques, pas trop. Je descends la série parce que c'est. Je me rappelle l'original, ouais, c'est pas la même chose, ça fait chier et tout. Non, la série un petit peu plus sérieuse, un peu plus sombre et valait quand même son pesant de cacahuètes. Ça a vérifié sur pièce, donc à partir de demain 15h sur TF1. Maintenant en spécial Grande-Bretagne avec plein de bonnes choses. Bon, il n'y a pas beaucoup d'inédits ici. La saison 5 de La Fureur dans le Sang qui démarre demain soir sur Canal+ à partir de 20h50, toujours avec l'excellent Robson Green, dans le rôle de Tony Hill, hein, le rôle de profileur, on va dire, à l'anglaise. Hein, c'est tiré des bouquins de Val McDermid, une nana qui, bon, bah, généralement, les nanas, ils n'équipent pas de trucs trop trash. Alors là, c'est quand même très trash, hein, il faut dire. Et avec donc sa nouvelle partenaire, son alter ego dans la police anglaise, Simone Labib, hein, parce qu'au départ, dans les autres saisons, les trois premières saisons, c'est Hermione Norris qui tient le rôle d'alter ego de Robson Green. Il y a également sur Paris Première lundi soir à 20h50, Division Enquête Criminelle, dont la première saison a ravi les exécutifs de la BBC qui ont dit « Allez, on repart pour une deuxième saison, c'est bon, allez, ça marche !» C'est avec Lindsay Coulson et Samantha Spiro. Lindsay Coulson qui a même fait une apparition dans un épisode de Doctor Who. Pour ceux qui avaient loupé le coche lors de la première diffusion de Life...
Moi, j'ai le lecteur CD qui...
Ouais, c'est pas grave. De Life on Mars, eh bien, 13e rue est en train de rediffuser Life on Mars en intégralité. Alors, vous avez loupé les deux premiers épisodes qui ont été diffusés la semaine dernière. Vous n'étiez pas là pour que je vous en parle. Tant pis pour vous. Hein, mais on peut quand même un petit peu suivre Life on Mars sans avoir vu le début. Il faut simplement savoir que à la suite, le début est très simple. Hein, John Sim, qui interprète le rôle principal de l'inspecteur, poursuit un serial killer qui a tué sa petite copine et plein d'autres personnes et tout. Il fait un accident de bagnole. Il a un accident et puis bon, quand il se réveille, ben il se retrouve en 73. En 1973, donc bon, bah, gros décalage temporel. Durant les deux saisons, car il y a deux saisons, chaque fois 8 épisodes par saison, eh bien, il va essayer d'être dans sa nouvelle brigade, donc d'inspecteur de police, sous les ordres de Philippe Glenister, magnifique, excellent, impeccable, en patron d'une équipe de policiers, on va dire, à l'ancienne manière, hein, parce que ça se passe à Manchester. Il faut savoir que dans les années 70-80, eh bien, il y a eu une grosse affaire véridique, hein, concernant la police à Manchester qui s'est complètement vérolée, complètement pourrie, hein, qui n'hésitait pas à prendre des pots de vin, à faire tout et n'importe quoi. Et donc, c'est quand même assez intéressant de redécouvrir cette série Life on Mars. Quoique, on ne peut pas vous dévoiler quelle est la fin, parce que la fin est quand même un petit peu spéciale. Il y a une espèce de twist comme ça. Est-ce que John Sim est vraiment en 73? Est-ce que c'est pas un coup tordu qu'on lui fait? Tout le monde qui essaye de le faire retourner en arrière comme ça. Pourquoi? C'est assez rigolo quand même. Mais n'empêche que c'est très très bien joué. C'est magnifique. Life on Mars, donc c'est sur 13e rue, lundi à 20h50. Il y a également... sur Série Club, une série assez sympathique, anglaise, s'appelle Red Cap Police Militaire, avec Tamsin Outwet dans le rôle principal, hein, qui, eh bien, c'est une mini-série, hein, de 6 épisodes par saison. Là, on nous diffuse lundi prochain à 20h45 sur Série Club l'épisode 3 et l'épisode 4. Ça narre, eh bien, les enquêtes policières de la police militaire anglaise, eh bien, dans l'armée britannique, hein, que ce soit en Angleterre ou même dans les stations basées encore en Allemagne, les régiments anglais qui sont encore Allemagne.
C'est une série qui est pas mal du tout d'ailleurs.
C'est pas mal du tout.
On est en train de faire les cons en fait. on a trouvé un tournevis sonique.
Ah ouais, je vous raconte pas. Hein. Et pourtant je reste sérieux là.
Reste sérieux.
Et par contre, il y a un téléfilm qui est diffusé ce soir sur 13e rue à 20h45. Alors c'est en deux parties, donc ça dure 2h35 en tout, mais ça vaut son pesant cacahuète. Pourquoi ? Parce que l'interprète principal, c'est Philippe Glenister, dont je vous parlais juste avant, hein, le patron de John Sim dans Life on Mars. Hein. Excellent, hein, vraiment excellent, quoi, cet acteur. Et il joue dans ce téléfilm qui s'appelle Suspicion, un téléfilm de Ashley Pierce de 2005, dans lequel il joue le rôle d'un type qui se remet à la colle avec une nana qui a une fille adolescente, alors que lui, eh bien, il a perdu sa fille et son mariage donc s'est cassé la gueule à cause de ça, parce que sa fille a disparu un jour, quoi. Et en fait, comme il est par ailleurs, eh bien, ancien inspecteur de police qui a démissionné à la suite de cette affaire parce qu'il n'a pas réussi à la résoudre et qu'il est chauffeur de taxi, et que d'un seul coup, eh bien, la fille, sa belle-fille donc, eh bien, vient à disparaître également. Tous les soupçons vont se poser sur lui parce que bah ouais, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe et tout. Et c'est vraiment très très bien, c'est vraiment génial. On pourrait s'attendre à une espèce de mélo dégoulinant et qui fait chier au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Maintenant, pas du tout. Il y a des rebondissements. C'est vraiment impeccable. Si vous ne l'avez pas vu, hein, je vous le conseille vivement. C'est ce soir sur 13ème rue à 20h45. Suspicion.
Tiens, du avec... sport. Du sport. Tu sais comment, vous... tu sais comment Thomas, on peut calmer un du sport ? On lui dit... Coffret DVD.
Ah ouais.
Torchwood
ouais.
Saison 2, puisque la série vient de terminer d'être diffusée sur BBC 3 d'ailleurs. Je pense qu'elle passe sur la 3, elle passe pas sur la 1. Saison 2 Torchwood, j'ai pas encore vu. C'est comme Nerd, c'est en cours.
Non, mais on va passer, t'en fais pas. Il y a également John Rowe hein, dans ce téléfilm qui s'appelle Suspicion. Donc c'est ce soir sur 13ème rue à 20h45. Parlons musique à présent.
Wouh!
Avec Arte qui fait beaucoup pour la musique, surtout avec la nouvelle thématique l'année dernière, c'était Summer of 60s. Cette année, c'est Summer of 70s. Enfin, quoique Summer of 70s, moi, j'aurais quand même pris ça avec des pincettes, tu vois. Parce que dans les années 70, c'est plus Flower Power, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Hein.
Tout le monde est gentil.
C'est plutôt on casse tout, on a vu comment ça s'est fini les années 70 avec les punks et tout quoi. Donc,
ouais, hein, et les vieux punks.
Nos futurs quoi, tu vois.
Ouais.
Quoi,
c'est plus la même chose. Ça va, dis pas ça de Rascal.
Alors, Arte Musique qui déjà a la bonne idée de vous programmer tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 18h30, Top of the Pops. Si.
C'est fini depuis 5 ans cette émission.
Alors, Top of the Pops, récupéré les archives de Top of the Pops de 1971 jusqu'à 1979, Summer of 70s.
L'émission radio a été créée en 65.
Oui,
mais au départ, c'était une émission radio sur Radio 1, quand ils ont créé les radios chiffrées, là, 1, 2, 3, 4. Et elle est passée à la télévision à partir de
67, ouais. Alors c'est l'émission qui a vu absolument tous les groupes et tous les artistes que compte la variété et le rock international.
Quel a été le premier groupe à ne pas avoir joué en playback dans cette émission ?
Je crois que c'était Clash, il me semble.
Non. AC/DC.
Ouais, peut-être, ouais.
Demande à Bruce, tu vas voir, le programmeur musical de la radio, il va te tomber dessus. Là.
En tout cas, le seul groupe qui n'est jamais passé dans Top of the Pops, c'est les Beatles, qui ne faisaient plus d'apparition à cette époque-là et tout. Donc ils avaient dit, oh, allez vous faire foutre et tout, c'est pas la peine. Donc ça vaut le coup. C'est présenté par Philippe Manœuvre. Bon, il est assez agaçant quoi comme présentateur.
Bah c'est une encyclopédie.
Mais il sait quand même de quoi il parle. Et de 71 à 79, hein, ça veut dire de David Bowie jusqu'aux Ramones. Donc, raccourci, ça va, ça peut valoir en pesant de cacahuète. C'est sur Arte tous les jours de 18h30.
Je crois qu'il y avait même Kiss. Il y avait même Kiss à l'époque.
Ouais. Bah oui. I was made for loving you. Non, ça c'était en 79. Hein. Fin 79. Si, je peux te le dire. C'est rediffusé tous les jours à 14h25. Donc c'est soit 14h25 ou soit 18h30. Ça dure une demi-heure, donc ça vaut le coup. Dimanche sur Arte, mais très tard le soir, à 1h05 du matin, Keppel Road, The Life and Music of the Bee Gees. Ouais, sur Arte. Alors, il n'y avait pas que ça hein, chez les Bee Gees avant, c'était plus... Massachusetts. Lundi, spécial rock, c'est parce que c'est le 14 juillet, avec à 9h50, à Route du Rock 2005, concert Art Brut et Cure. À 14h55, Rock et Rex avec Patti Smith, Archive, The Kills, Grand National en concert. À 16h20, Free Concert in Paris 2008, ça a été enregistré en juin avec Mickey Green, Mademoiselle K et les Hush Puppies. Et à 21h, le film de Prince, Purple Rain.
Purple Rain.
À 22h45, toujours sur Arte, lundi prochain, Leonard Cohen, hommage à Leonard Cohen, présence de Leonard Cohen. Leonard Cohen, qui, après avoir connu la gloire, Suzanne, tout ça, le chant des partisans, a fait encore deux ou trois disques. Et au milieu des années 70, il s'est trouvé un truc bouddhiste. Et donc, il allait étudier Bouddha au Népal et tout. Il a tout laissé tomber, la musique et tout. En se disant, bon, de toute façon, avec le pognon que j'ai ramassé, les droits d'auteur, tout le bordel, j'ai plus besoin de travailler, c'est cool. Seulement, son manager et impresario et tout, il a craqué tout le pognon. Ce qui fait que Leonard Cohen a été plus ou moins contraint de revenir. Là, il a produit un nouveau disque et de refaire des concerts, des trucs comme ça, pour gagner de l'argent, parce qu'il était fauché de chez fauché. Tu vas me dire, chez les bouddhistes, ils ont besoin de pognon, mais bon.
Ce qui me fait rire, c'est qu'après, il a chanté Alléluia. Voilà.
Alors. Alors, c'est à 22h45 lundi, l'hommage à Leonard Cohen. C'est le festival de jazz de Montréal, le 26 juin de cette année, avec plein d'invités qui rendent hommage à Leonard Cohen. En sa présence, Cathy Mélois, Michael Bublé, Zachary Richard, Ron Sexsmith, Buffy Sainte-Marie. Oh là, alors là, elle doit être vieille maintenant, cheveux blancs et tout, quoi. C'était l'indienne canadienne qui chantait des chansons folk dans les années 60, fin des années 60. Et Madeleine Perroux. J'avais oublié le truc là, t'as le disque là qui est là et tu peux le mettre carrément et tu mets le morceau, la reprise de Gainsbourg, la javanaise là. Vas-y, le 8, le 9, ouais, le 10, voilà quoi. Donc Madeleine Perroux également à cet hommage de Leonard Cohen, c'est ce lundi sur Arte. Mardi, soirée Dylan avec tout d'abord le film de Peckinpah. Version montage Peckinpah, pas la version qui est sortie au cinéma, de Pat Garrett and Billy the Kid, dont la musique est de Bob Dylan. Et on a également Bob Dylan qui interprète le rôle d'Alias dans le film. Je sais pas si Dylan qui avait déjà fait l'acteur à la fin des années 60 dans un film australien qui s'appelait Performance avec un certain Mick Jagger. Non, c'était pas Performance, c'était l'autre film avec Mick Jagger, je me rappelle pas le titre. Il y avait Dylan également, il y avait d'autres gens. Et c'est suivi d'un documentaire dans la série de documentaires que Scorsese a fait sur la musique américaine, No Direction Home. Et là, c'est bien entendu un documentaire sur Bob Dylan qui date de 2005 à 22h45. En dansant la javanaise. Voilà, ça c'est Madeleine Perroux. La Billie Holiday canadienne.
Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour?
On termine avec Arte Musique ce vendredi prochain avec un concert de Bob Marley, vu et revu et revu et revu. Mais comme c'est certainement le meilleur concert filmé qu'on ait de Bob Marley and the Wailers, c'est le Live au Rainbow en 77. Si vous ne l'avez jamais vu, regardez ça, là vous allez comprendre ce que c'est Bob Marley sans problème. Junior Mervyn à la guitare, les Aston Family Man Barrett, c'était le crew avec comment elles s'appelaient, les nanas là. Les choristes de Bob Marley, enfin bref quoi, tous, et là c'est vraiment c'est du feu de toute façon, il n'y a pas de problème. Vendredi prochain 23h30, Bob Marley and the Wailers live au Rainbow en 77. On termine avec une sélection de films avec des sabres, des épées, des coupe-choux,
ouais,
des lames, quoi. ce soir, sur M6, la fin du livre 5 de Kaamelott. Les épisodes 3 et 4, vu que les deux premiers épisodes étaient diffusés jeudi dernier.
C'était la première partie de la saison, là c'est la deuxième partie de la saison.
Voilà, le livre 5.
Mais qui était déjà diffusé, non?
Non, cher ami. Avec comme invité Christian Clavier, Guy Bedos, Patrick Bouchitet, Anou Greenberg. C'est ce soir sur M6 à 20h50.
Ah oui, alors attends, la première partie, dont cette partie qui est diffusée ce soir et la suite directe, en fait, la première partie, ça se soldait sur Arthur dans sa baignoire. On est bien d'accord.
Il me semble, j'ai pas vu moi.
Mais j'en étais sur le suicide d'Arthur.
Arthur n'est plus roi puisque ils ont
remis, mais ensuite il a tourné en rond et après il s'est suicidé après avoir rencontré son père.
Alors,
joué par Guy Bedos.
Et donc le suicide, est-ce que c'est la fin de ce soir ou est-ce que ça, ce soir c'est la suite?
C'est la suite, c'est numéro 3 et numéro 4.
Oh putain, tu peux,
c'est
tu peux me dire merci, tu peux enregistrer sur disque.
Ah ouais, mais c'est dommage parce que vous allez louper la rediffusion de l'excellent film de Paul Verhoeven, La chair et le sang, sur RTL 9 ce
déjà
soir.
Déjà en VHS.
Rudy, Jennifer Jason Leigh, ouais.
Jennifer Jason Leigh,
ah ouais,
à poil et tout,
oh là là, la barbaque infestée de peste balancée
dans le puits,
oh là là. Bon, c'est ce soir, hein, si vous l'avez jamais vu. Bah,
et Rutger Hauer qui sort de l'eau avec les flammes autour, à la Martin Sheen.
Oh là là. Un des meilleurs films de Paul Verhoeven, sans problème. Demain, sur TF6, c'est Les Trois Mousquetaires, Les Ferrets de la Reine de Bernard Bordery en 61.
Excellent.
Avec Gérard Barret
et Georges Descrières.
Et Daniel Sorano. Alors, le théâtre Sorano, les gars.
Oui, c'est...
Daniel Sorano.
Et Perrette Pradier.
Oui.
Et Mylène de Mongeau.
Non. Ah non, c'est pas d'accord.
Mylène de Mongeau.
Lundi sur M6 à 22h15, Jeanne d'Arc de Besson. Hein, bon, ok, d'accord, oui. Mais sinon, sur Action, à 20h40, lundi, il y a Sword in the Moon.
Ah,
un film sud-coréen de Kim Hui-tsuk.
Oui. Il est pas trop mal, point de vue réalisation. Les combats sont pas mauvais. Après, il y a quand même des faillites hein, sur la maîtrise, sur certaines choses, mais bon, il est sympathique, honnêtement.
Alors, mardi, sur TF6, le staccanoïste Bernard Bordery, toujours la même année, 61, nous refait un Trois Mousquetaires, La Vengeance de Milady, parce que elle est pas contente, puisque les ferrets, justement, elle.
Lui, ils sont passés sous le nez.
Oui, elle comptait s'en servir pour justement faire chanter.
La reine.
La reine.
Et donc, elle kidnappe la servante.
Et voilà.
Et Gérard... tu l'aurais su si tu avais lu quand même le journal de D'Artagnan.
Ben, je l'ai lu.
Chez Très Étrange, Milan Édition.
En tout cas, il y a toujours Gérard Barret, et là, il y a Mylène de Mongeau.
Voilà. Il y a des parties d'épisodes, oui, c'est Milady, c'est que dans La Vengeance de Milady, forcément.
Oui,
mais elle intervient dans le...
Elle intervient dans le 1 à la fin, quand elle se fait... Ben oui.
Dans le cliffhanger.
Elle se fait piquer les ferrets devant elle et tout, et puis elle arrive devant le cardinal, elle dit « j'ai échoué » et tout, et puis là, il regarde le
cardinal joué par Didier Passamonix, superbe.
Non, il regarde le roi et la reine en train de parader, puis je vengerai
le maître. Mercredi sur TF1 à 20h50, Dr House.
Obligé.
Scalpel. Scalpel, obligé. Sinon, sur Cinéma Star, mercredi prochain à 20h45, Yakuza, l'excellent film de Sidney Pollack. Avec Robert Mitchum, Brian Keith et Ken Takakura. Ouais, excellent film. Jeudi sur France 3 à 20h55, 2h moins le quart avant Jésus-Christ, de Jean-Yann, scénario de Jean-Yann.
Ça coupe ?
Ça se passe chez les Romains, il y a des épées, hein, des glaives, mon cher ami.
Et puis il y a les gens de la route et les gens de...
Et Jean-Yann, il fait pratiquement tout dans le film parce qu'il fait également la musique du film. Hein.
Ouais.
Attention, très fort, hein, Jean-Yann.
Le générique de fin est très très drôle.
Coluche, il y a toute la bande, hein, de toute façon. Quoi, ouais. C'est toujours un régal, de toute façon. Quoi. Tu retombes dessus.
Il y a même Yves Mourouzi, qui était le PPDA d'avant.
Ah oui. Paris Première, jeudi prochain, Nip Tuck, saison 4, pareil. Hein, ça coupe aussi, quoi. Et ça coupe plus que dans Doctor House.
Oh
ça,
putain.
Ah oui. Et sinon, sur Syfy, on nous rediffuse la série Blade. Donc à partir de 22h05 jeudi prochain, les épisodes 3 et 4.
Il paraît que c'est pas une réussite. Hein.
Bon, non mais là ça va couper. Non, ça...
Ouais, ça peut se regarder quand même quoi. Ouais. C'est pas si pourri que ça quoi, je trouve. Et il y a une espèce de d'intrigue à propos des vampires qui veulent prendre le pouvoir qui est assez intéressante quand même.
Coupe
quoi.
Court là-dessus, coupe court.
Et vendredi, on termine avec le Dracula de Francis Ford Coppola Cinéma Premier. Ou comment se passer la langue sur un
sans
rasoir.
sans
se couper la langue.
Une jolie démonstration.
Avec la belle musique de Wojciech Kilar.
Ah ouais.
Bon, avant qu'on s'échange, là, je t'ai filé le Rat Pack en CD. Je sais pas qui veut le... Non, je vais le faire.
Torchwood, on va te le laisser regarder avant.
Ouais, c'est ça. Bon, ensuite, je te passerai Nerds, d'ailleurs.
Oui, le premier DVD de Nerds, ouais.
Donc, croyez-moi qu'il est tard. 13h48, c'est pas le meilleur score. Je crois que le meilleur score, c'était 55.
Ah, bon, mais deuxième high score, alors.
Même pas sûr. Donc, je reprends mon texte et je dis... Thomas, s'il te plaît, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission Supplément Week-end en cours de route ?
Bien sûr, Xavier. Alors, nous avions un débrief de la Japan Expo. Xavier qui a chanté Goldorak sur la musique de Bioman, c'était très fort. des gars en toge, des suicidés, du Dr House en chaise à roulettes. Nous avons eu Super Jimmy, des roast beef à la télé, Arte Musical et des programmes où ça fait schrap schrap.
Grand Dieu, ils ont oublié tout ça. Enfin, non, pardon.
Non, non d'une pédale dopée. Ils ont loupé tout ça. Heureusement, ils peuvent réécouter l'émission sur le site de l'émission.
Avec bien évidemment les chroniques écrites, laissez vos commentaires, n'hésitez pas, fouillez dans nos archives, réécoutez les émissions en intégralité et posez vos questions à la fine équipe. N'hésitez pas, pour cela c'est très simple, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.tk ou sur le site de la radio, radio-fmr.net, ou chercher Supplément Weekend sur Google. N'hésitez pas, on est en premier, c'est très pratique. La suite des programmes sur Radio FMR avec du sport, 15h du reggae, et 17h c'est la fin de FMR pour aujourd'hui, puisque ce sera Booster FM qui prendra la suite sur 89.1 MHz. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, même générique de début, tant qu'il n'y a pas d'émission pour l'instant, et avant nous, et en attendant, et ben on vous souhaite bonne chance, parce que nous on va essayer de traverser le Tour de France, et les passages cloutés et les feux rouges, ils s'en foutent. Ciao, bye bye.
Ciao.
À toi, Nus.
Chers petits amis, lorsque vous entendrez votre disque faire, cela signifie que Didier est allé un peu trop loin vis-à-vis de la loi française qui est en constante évolution. Ceci est un communiqué de ces petites b*** d'Universal qui ont très peur de se prendre un procès.
Bonjour, je suis le chanteur masqué de l'apocalypse et je suis pas content parce que la gauche, eh ben, elle a pas su nous manipuler aussi bien que la droite. Alors ça c'est une chanson démagogique qui s'adresse à une certaine majorité de moins de 50 ans.